Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce sujet. Et en fait, ça démarre de la paracha de Shemot. Quand c'est là-bas, dans Vaera plutôt. Vous savez, quand les 10 plaies d'Égypte tombent sur la terre sur les Égyptiens, et que quand on arrive à la 7e plaie, la plaie de la grêle, alors il y a un langage bizarre qui est marqué dans le passouk, c'est marqué Va'asher losam libo el dvar Hashem va'yazov et avada v'et mikneu basadeh. Que bien qu'ils aient déjà été prévenus 6 fois, et qu'on arrivait déjà à la 7e plaie, et que Moshe Rabbeinu a annoncé, il y a une marloquette, il y en a qui disent qu'on a annoncé pendant 7 jours, et la plaie elle tombait pendant 24 jours. Il y en a qui disent que non, en fait la plaie elle était annoncée pendant 24 jours, et elle durait pendant 7 jours, mais en tout cas tout le monde est d'accord qu'on prévenait avant. Et malgré ça, c'est marqué qu'il y en a qui n'ont pas fait attention à ce qu'a dit Moshe Rabbeinu et qui n'ont pas fait rentrer leurs troupeaux, ils n'ont pas fait rentrer leurs serviteurs, et quand la grêle elle est tombée, elle les a tués, elle les a massacrés. La grêle, c'était des cailloux de glace qui faisaient 10 cm de diamètre, c'était des boules de pétanque, c'était pas des... Bon. Alors c'est marqué là-bas, « Asher lo sam libo el dvar Hashem », et ceux qui n'avaient pas mis son cœur, bon, qui n'avaient pas mis son attention sur la parole d'Hashem, « Vayazov et avadav », il a abandonné ses serviteurs, « Vayetmikneu » et son troupeau, bah, ça allait dans le champ. Maintenant, la question, et c'est ça le sujet qu'on va essayer de réfléchir, c'est quoi cette notion que maintenant quelqu'un, l'osam libo, ouais, quand quelqu'un dit, j'ai pas fait attention, excusez-moi, j'ai pas réfléchi. Oui, comme des enfants, toute l'année, tu leur dis attention, 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 et à la fin de l'année, il est renvoyé de l'école. Il dit, mais ça fait un an qu'on te prévient. Ah, mais pourquoi? Donnez-moi ma chance. Ah, pourquoi? Alors en français, on dit, on n'a pas pris à cœur. Oui. Moi, je vois beaucoup dans le Shalom Bayit. Les gens, ils attendent vraiment la lettre d'avocat pour commencer à dire, bon, je vais changer, je vais essayer de voir, je vais... C'est bizarre, cette espèce de... Alors, ça s'appelle Simat Lev en hébreu. Simat Lev, c'est une forme de sensibilité qu'il faut avoir, ou malheureusement, quand il y a un manque de Simat Lev, c'est une insensibilité qui est, c'est ce qu'on va essayer de réfléchir, qui est dangereuse. Et c'est un gros problème, même dans le Chinour. Parce qu'on éduque les enfants, alors on essaie déjà de leur donner des bonnes qualités, on essaie de leur donner des connaissances, mais des fois la connaissance ne suffit pas, parce qu'il n'y a pas cette réactivité. Oui, l'enfant il dit oui, je sais très bien que c'est pas bien, et je sais que ça va m'amener des problèmes, et je sais ce que tu vas me dire. Alors pourquoi tu bouges pas? C'est bizarre. On dirait qu'il y a une coupure entre la sensibilité et la réactivité. Oui, comme un homme, comment on fait des avérotes? Ouais, quand on connaît rien, on connaît rien. Le gars, il connaît rien, et comme un goy, il a jamais appris, il a jamais. Maintenant, il a appris, il connaît la halakha, il a étudié le sujet dans la Gemara, il a vu, mais il fait la vera. Mais c'est un sourd, c'est pas bien, ce truc. C'est trop difficile, vous connaissez pas, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de. L'autre jour, 1h30 au téléphone avec un monsieur qui faisait de très grosses bêtises, il est marié avec des enfants, il était même à un moment, il était très religieux, et maintenant, bon, je sais pas s'il est encore aussi religieux, mais. Des avérotes graves, le genre de avérotes qu'on peut faire tout seul quand on est un homme, ouais, vous comprenez de quoi je parle, ouais. Et moi je lui parle, je lui dis, mais c'est assourd, comment tu fais ça? En plus tu regardes des films bizarres et tout ça. Il dit, écoutez, moi j'ai besoin, c'est à cause de ma femme, elle m'apporte pas ce que j'ai besoin. Je dis, mais quel rapport, ouais. Je sais pas si vous comprenez, ça veut dire que la personne, elle s'est rentrée dans une phobie, ça vous dérange? Donc elle s'est rentrée dans une phobie. Très bien, super. Donc ça veut dire quoi? J'ai compris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette insensibilité, oui, c'est ça qu'on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Que c'est pas un problème de connaissance. Parce que la personne, elle sait, l'adulte, l'enfant, il sait. D'accord? Quand tu lui poses la question, il dit, mais je sais. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de réactivité? Comment il y a une espèce de coma à l'intérieur? On dirait que les fils, ils sont déconnectés à l'intérieur. Mais à l'extérieur, la personne, elle est là. Au niveau de la connaissance, la personne, elle est là. Mais pourquoi elle ne bouge pas? Tu sais que ton problème, c'est ça. Ouais. L'autre jour encore, je me suis bagarré avec un monsieur parce qu'il n'arrive pas à marier ses enfants, mais il a un mauvais caractère. Il a un mauvais caractère. Et tout le monde sait qu'il a un mauvais caractère. Et les gens, ils m'appellent pour avoir des renseignements sur ses enfants. Et quand je leur dis, ils sont bien, ils me disent, mais le père, il n'a pas un mauvais caractère. Alors j'en ai eu marre. J'ai été voir le père. Je lui dis, écoute, tu ne vas pas marier tes enfants. L'autre, il a 26 ans, il n'a pas eu un chidour. C'est pas possible. Parce qu'à chaque fois, les gens, ils savent que tu as un mauvais caractère. Et le gars, il dit, je ne peux pas. Moi, je vois un truc à l'extérieur qui n'est pas normal. Je crie et je vais m'engueuler avec celui-là. Et je crie à Rosh Hashanah et je crie. Je dis, mais ton mauvais caractère, il va pourrir toute ta maison, ta famille, tout pourri. Le gars, il, je sais, et après, excuse-moi, Mehila, j'aurais pas dû crier. Non, mais attends, mais non, ça va bien la Mehila, mais les conséquences, elles sont là. Qu'est-ce qui se passe qu'il y a une espèce de, je vous dis, il y a une espèce de déconnexion de la personne, ouais, que la personne, elle ne. Comme tu vois que la société, elle a un problème, vas-y, il faut y aller, il faut bouger, il faut réagir. Non, tu restes starbo comme ça, tu t'enfonces dans le trou, tu ne trucs pas. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce que marqué ici, il dit simplement pourquoi va Asher lo sam libo. Lo sam libo el dvar Hashem. Il n'a pas, en français on traduit, il n'a pas mis son cœur, mais en français on traduit prendre à cœur. Ouais, quelqu'un, il n'a pas pris à cœur. Tu prends à cœur, oui, tu prends à cœur. Alors prendre à cœur, parce qu'il y a différents niveaux de conscience. Quelqu'un, il a une conscience consciente, d'accord, je vois de quoi tu parles. Une conscience intellectuelle, j'ai compris de quoi tu parles. Mais après, il y a une conscience qui amène vers la réactivité. Alors c'est ça qu'on va essayer de réfléchir, et c'est ça qu'on va essayer de soigner ensemble. Oui. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Shvuot, Daphné Amoud Alef, elle pose un cas spécial. Ça s'appelle Yediat Bechiyuv Korban Bebiat Migdash Betuma. Si quelqu'un, il est rentré dans le Bet Amigdash, dans le temple, en étant impur, ouais, s'il l'a fait volontairement, c'est Hayav Mita. S'il l'a fait de manière involontaire, il doit amener un Korban. D'accord? Maintenant, vous savez que le Korban, on l'amène toujours sur quelqu'un, dans un cas où une personne, elle doit avoir quand même une certaine conscience. Elle doit avoir une certaine connaissance. Maintenant, si elle est entièrement en connaissance et en conscience et en volonté, ça s'appelle volontaire. Et volontaire, il doit mourir. Donc, il faut trouver assez de connaissance pour que la personne, elle soit considérée quand même comme involontaire. Alors, la Gemara, elle pose la question. Alors, elle dit, c'est quoi cette yédia? C'est quoi cette connaissance qu'il faut pour rendre hayav, pour rendre obligé d'amener un korban pour quelqu'un qui est venu dans le Beth Amikdash en étant impur? Alors, Rabbi, il donne cette explication, il dit comme ça. Yediat bet rabo shma yedia. La yediat bet rabo, la connaissance de la maison de son rab, c'est-à-dire la connaissance qu'il avait à l'école, qu'il a appris. Alors, Rachid explique là-bas. Yediat bet rabo, c'est quoi? Shelamad bebet rabo, shanoga betuma tamé. Il a appris à l'école que quelqu'un qui touche un reptile ou un mort, il devient impur. Il a appris cette halakha. Il a appris. Ça s'appelle yediat bet rabo. Ve'u yodea, oui. Alors c'est marqué Veu Yodea Shirgish Shenaga. Ouais. Et lui, il sait qu'il a senti qu'il a touché. Attention. Aval Loit Bonen Lasum Lev Shenitma. C'est très bizarre. Ouais. Il n'a pas réfléchi, si on traduit bien les mots, il n'a pas réfléchi de mettre son cœur qu'il est impur, qu'il est rendu impur. Donc maintenant, il sait que toucher quelque chose de tamé, ça rend tamé. Il sait qu'il a touché, mais il n'a pas pensé à la conséquence. Vous voyez ce que je veux dire, non? Comme quelqu'un qui frappe, il ne pense pas que ça fait mal. Il frappe, mais il est en train de frapper. Tu sais que tu frappes, là? Oui, je frappe. Mais tu as vu quel âge il a? Il a 8 ans. Tu as vu le coup que tu mets? Oui, mais il m'a énervé. Non, mais là, c'est un coup que tu mets à un adulte, tu l'assommes. Un bébé, un enfant de 8 ans, tu lui mets un coup comme ça. Ah, mais il m'a énervé. Après qu'il se calme, il dit, mais je ne me rendais pas compte. J'ai pas réfléchi que c'était un gros coup de poing. J'étais un peu fou. Ouais. Donc il s'est marqué ici. Il faut bien décomposer le rashi. Oui, chez la mad bébet rabo. Donc il a la connaissance. Donc on ne parle pas de la connaissance. Il a la connaissance. Après, il a la conscience qu'il a touché. Il sait qu'il a touché. Mais, aval lo itbonen. C'est quoi les itbonen? En hébreu, les itbonen, on dit que ça veut dire réfléchir. Ouais. Mais les itbonen, ça vient de binyan. Binyan, c'est quoi? C'est construire. Ça veut dire quoi? Comme en français, on dit, tu as construit un raisonnement. Tu as construit un raisonnement. Mais quand on construit une maison, on met des pierres, on met des murs, on met des... Alors, c'est quoi construire un raisonnement? Ça veut dire qu'il y a une logique, d'accord? Il y a des interactions, il y a des causes, il y a des conséquences, il y a des liens de causalité. Ça s'appelle que tu as construit. Donc, les itbonen, c'est que ton raisonnement, il est construit. Maintenant, quand l'eau itbonen, donc il n'a pas construit, c'est-à-dire que il n'a pas créé les liens, il n'a pas fait le lien de cause à effet, il n'a pas fait le lien de causalité. La sum libo, ouais, pour mettre son cœur, pour prendre à cœur, chez Nitma, que lui il est devenu impur. Ça veut dire qu'il faut faire une différence entre la connaissance générale et la connaissance qui me concerne. Oui? Comme des gens, ils volent au travail. Et il t'explique qu'il ne faut pas voler, et il t'explique que celui-là, il est en train de voler, mais lui, il ne se rend pas compte qu'il est en train de voler. Mais toi, tu voles. Mais non, je ne vole pas. Non, c'est simplement que la facture, quand elle arrive, je m'étais en train de voler là. Mais non, mais ce n'est pas du vol. C'est... Mais si, c'est ça du vol. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est du vol. Enfin, oui, parce que. Ah oui, parce qu'en fait, quand c'est ma société, mais je déchire l'étiquette, je mets une autre étiquette. Enfin, ah, c'est pour... donc la TVA. Ah, ah, donc tu es en train de voler là. Ah ben écoute, effectivement, au niveau comptable, je vole. Dans ce pays-là, je vole, mais ici, je ne vole pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait. Tu n'as pas été mis de bonaine. Tu n'as pas été mis de bonaine. C'est-à-dire que tu n'as pas construit ton mode de pensée pour que tous les liens y ramènent à ta conscience. Que d'un seul coup dans ta tête, la preuve, c'est que si vous avez, sûrement vous avez eu l'occasion d'expliquer quelque chose à quelqu'un, ou à un enfant, ou à un ami, ou même vous-même de vous expliquer quelque chose, au moment où vous comprenez, c'est comme si d'un seul coup il y a la connexion qui s'est faite. Comme l'enfant, il a écouté à la Guémara à l'école, il n'a rien compris. Toi tu refais avec lui doucement, tu vas, à d'un seul coup tu vois ses yeux, il fait comme ça, il fait. Ça veut dire maintenant il a compris. Maintenant, c'est maintenant qu'il a compris. La Chavruta, maintenant il a compris. Avant, il n'avait pas compris. Donc ça veut dire quoi? C'est comme si la connaissance, maintenant il te refait le compte de la Gemara. Le Rav, il a dit comme ça, le Rav, il a dit comme ça, mais tu as compris. Il va te répéter, mais il n'a rien compris. Il n'a pas encore compris, ça veut dire qu'il n'a pas finalisé la connexion, donc il n'a pas construit tout le système pour que la connexion, elle arrive jusqu'à la conscience. Mais là, on parle que la personne n'a pas construit la connexion pour que la connaissance, elle arrive à la réactivité. Oui, qu'elle arrive, la personne à bouger, qu'elle arrive à se mettre en place. Comment ils appellent ça les Chachamim? Ils appellent l'osam libo. L'osam libo, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis son cœur à l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et comment ça marche? Alors, il faut bien comprendre que les cours qu'on essaie de vous donner, ce n'est pas des coups par coups, c'est des choses qui se relient les unes aux autres. D'accord? Donc quand on a expliqué beaucoup de fois qu'est-ce que c'est le cœur d'après la Torah, d'après les Chachamim, et qu'on a écrit beaucoup aussi dans le livre, pour ceux qui ont lu, qu'est-ce que c'est Lev Tov, et qu'est-ce que c'est dans la Mishnah là-bas. Et que le Lev, c'est l'intériorité de la personne. Et que toute sa vie, en vérité, on construit son intériorité, on la construit. Maintenant, quelqu'un, il peut avoir construit la théorie de son intériorité. Quelqu'un, il peut avoir construit la technique de son intériorité. Mais est-ce que quelqu'un, il a envoyé le courant à l'intérieur pour que son intériorité, elle soit vivante? Oui, ça c'est dangereux, oui. Et après que cette intériorité elle est construite, il faut aussi qu'elle soit reliée avec son extériorité. Et quand son intériorité elle est construite et que son extériorité elle est construite, alors ça, on appelle ça qu'il est vivant. Ça veut dire qu'il y a du travail. Ouais. Maintenant, c'est quoi la sim libo? Alors, en français, on a dit quoi? C'est prendre à cœur. Donc, c'est comme si une information, elle est extérieure, je peux la prendre dans ma main, je peux la prendre dans ma tête, je peux la prendre dans mon cœur. C'est-à-dire, je peux aller l'emmener chez moi, à l'intérieur de moi-même, que je suis vraiment touché. Maintenant, comme on a vu que dans le fil de la connaissance, dans la chronologie de la connaissance, des fois, on met des années et des années à comprendre une chose. Des années et des années. Un rave, il m'a dit, mais avec toutes les conférences et tous les voyages que tu fais, tu as moins de temps pour étudier. Je dis, oui, c'est vrai. Il dit, alors? Je dis, oui, mais c'est vrai, mais d'un autre côté, à force d'expliquer, je comprends de mieux en mieux ce que je sais déjà. Et bizarrement, dans la connaissance, quand tu comprends mieux ce que tu sais déjà, tu comprends même des choses que tu ne sais pas. Et quand quelqu'un il va parler d'un sujet que tu ne sais pas, tu vas lui dire, c'est ça le sens profond. Le gars, il dit, c'est pas possible. Il a dit, moi, ça fait 3 mois que je l'étudie, je ne l'ai pas compris comme toi. Et toi, d'un seul coup, tu me le dis. Alors, je dis, pourquoi? Parce que c'est de la même manière que quand tu montes en haut d'une montagne, ouais, tu ne vas pas voir juste ce qui est en face de toi. Tu vas voir tout le paysage. Et bien aussi, quand tu descends dans la connaissance, tu ne vas pas voir juste ce que tu as atteint, tu vas voir tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que le niveau de maturité que tu as atteint de manière intellectuelle, ouais, comme avec un enfant, tu as réglé un problème, tu n'as pas réglé un problème, tu as réglé plein de problèmes, parce que tu l'as amené à un niveau de maturité. Quand dans ton couple, tu as travaillé sur la communication, tu travailles, tu n'as pas réglé que la communication. Tu as créé la solidarité, tu as créé la karatatov, tu as créé l'investissement, tu as créé le sacrifice. Donc tu crois que tu as travaillé sur une chose, mais le niveau que ça t'a fait atteindre, ça t'a ouvert d'autres portes. Et c'est normal en vérité. Donc c'est quoi l'idée? C'est de savoir, est-ce que quelqu'un il veut juste cumuler des connaissances ou est-ce qu'à un moment ou un autre, il veut que la chose elle lui appartienne? C'est pour ça que souvent je vous ai amené cette dracha, que quand c'est marqué, quand la Gemara dans Kiddushin, elle dit « Chacham, Shemachal al Kevodo, Kevodo Machul ». Un Chacham, il peut être mochel sur son kavod. Si les gens ne s'élèvent pas, s'ils ne lui font pas le kavod, c'est pas grave. Il peut être mochel. La Gemara dit, mais comment il peut être mochel sur son kavod? Comment il peut pardonner son kavod? Mais ce n'est pas son kavod à lui, c'est le kavod de la Torah. Donc on ne se lève pas pour lui, on se lève pour la Torah, qui contient. Alors la Gemara dit, oui, mais c'est Torah dit, c'est la Torah à lui. D'accord ? De la même manière, Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on a choisi Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il était tellement modeste, il était tellement immatériel, il était tellement éloigné de la matière, qu'on était sûr qu'il allait transmettre la Torah d'Hachem sans la transformer. Alors qu'un homme normal, il a de la personnalité, il a des besoins, il a des envies, il a du kavod, automatiquement il transforme. Même déjà d'un rav à un élève, tu vois que l'élève, il ne dit pas exactement comme le rav. Et l'élève de l'élève, il ne dit pas exactement comme le rav et comme le rav et comme son rav. Comme le rav du rav. Ouais. Donc il y a de la déformation. Mais Moshe Rabbeinu, c'est qu'on l'appelle Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas de déformation. Il va transmettre exactement ce qu'Hachem lui a transmis. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit par Moshe la Torah d'Hachem. Oui, non? Oui. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle Torah Moshe Abdi. Il ne faut pas dire Torah de Moshe Abdi. Fallait dire, la Torah de Moshe, mon serviteur. Il fallait dire la Torah d'Hachem transmise par Moshe. Non, 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 non. Hachem lui-même, il a appelé Torah de Moshe. C'est la Torah de Moshe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un s'annule devant la Torah lui appartient. Par contre, quand quelqu'un ne s'annule pas dans la Torah ne lui appartiendra jamais. Oui? Et ne pas appartenir, c'est pas simplement qu'il ne va pas la retenir. On trouve même des Talmidim Chachamim qui sont des Echaim. D'accord? Donc ça ne veut rien dire. C'est pas que tu as fait un copier-coller avec ta tête. C'est-à-dire qu'il n'est jamais devenu cette Torah. Il n'a jamais appris entièrement cette Torah pour qu'il ait devenu cette Torah. C'est lui maintenant. Oui? Alors cette Torah-là, il peut être Mohel parce que c'est à lui. De la même manière, toi, ce que tu as travaillé avec ta femme, ce que tu as sacrifié avec ta femme, c'est à toi, c'est à vous, ça c'est à vous. Oui? Ce que tu as travaillé avec cet enfant, tu t'es assis, tu as pleuré avec lui, tu as parlé avec lui. Ah, ça y est, pour la 8e fois, la 9e fois, ça y est, maintenant il a compris. Qu'est-ce que c'est de ne plus mentir? C'est bien, c'est extraordinaire. Les gens disent, oui, mais il a fallu attendre 8 fois. De quoi tu te mêles? Peut-être c'était ça le chemin, peut-être le chemin c'était pas 6, c'était pas 7, c'était 8. Mais tu l'as, mort, c'est bien. Ça. Maintenant qu'il a acquis ça, ça s'appelle Torah d'Ilé, ça. Oui? Lui, sa Torah du mensonge. Ça y est, il a investi. Ouais? Sa Torah de la maturité, il a investi. Sa Torah de ne pas se mettre en colère, il a travaillé. Ça y est, c'est à lui, ça. Comment ça s'appelle, ça, Simat Lev? Ça va? C'est que la connaissance, elle n'est pas dans le livre. Ouais? Elle n'est pas dans la bouche. Elle n'est pas dans la tête. Elle est à l'intérieur. Ça y est, elle est revenue chez lui. Elle est chez lui. Maintenant, elle fait partie de son essence. Elle fait partie de ses chromosomes. C'est-à-dire que celui-là, si on lui faisait un analyse d'ADN, on trouverait ça. C'est vrai que le Chavetz Chaim, il a raconté une histoire incroyable. Il a dit, c'est un midrash en fait, qu'un jour, dans une ville, il y avait un monsieur, il n'était pas très connu, il était un peu dans son coin là-bas, on ne le connaissait pas, ni sa famille, ni sa femme, ni ses enfants, on ne connaissait rien du tout. Et un jour, il est mort. Alors, les gens, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Qui c'est qui va s'occuper? Il n'a pas de famille, qui c'est qui va faire le kaddish? Et sa femme, elle est sortie, on ne sait pas d'où, on ne l'a jamais vue. Et elle a dit, mon mari c'était un homme bien, il faut s'occuper de lui, il faut que la communauté elle s'occupe de l'enterrement, il faut qu'on fasse des mishnayot, elle a distribué le chasse mishnayot, elle a dit il faut faire des kaddish parce qu'il n'a pas d'enfant, elle a organisé des kaddishim dans les synagogues, elle a trouvé de l'argent pour ça, elle a tout fait. Alors les gens lui ont dit, mais madame, on ne vous connaissait pas. Elle a dit, oui, j'étais très discrète. Elle était toujours chez elle à la maison. Alors un jour, il a trouvé ça bizarre, il a dit, mais comment vous appelez madame? Elle est comme, c'est quoi? Elle a dit, quel est votre prénom? Elle a dit, Hagiga. Hagiga, c'est pas commun comme prénom. Et votre nom? Masechet. Masechet Hagiga. Et elle a disparu. Alors le Midrash, il dit, cet homme-là, toute sa vie, il a étudié la Gemara Hagiga. Ouais, c'était sa femme. Maintenant, quand il est mort, la Masechet Hagiga, elle est montée devant Hachem, elle a dit, cet homme-là, il m'a donné toute sa vie. Ouais, alors maintenant, il n'y a pas de kaddish, il n'y a rien. Laisse-moi m'occuper de lui maintenant. Elle est descendue, elle s'est incarnée dans un corps de femme et elle a fait tout ce kavod pour lui. Parce qu'il n'a pas eu de mazal, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Alors lui, il a donné toute sa vie pour cette guémara-là. Aujourd'hui, quelqu'un, il doit connaître le chasse. Lui, quelqu'un, des fois, il donnait toute sa vie pour une guémara. C'est sa guémara, lui. Ouais. Et bien, il a donné toute sa vie pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors toi, tu te dis, mais c'est quoi? C'est magique? C'est quoi une femme? Elle vient comme ça, une guémara, elle vient sous forme de... Ouais. Moi, ma femme, elle s'appelle Guémara, donc moi, j'ai carrément tout le chasse. Ouais, mais c'est quoi cette idée-là? L'idée, c'est simple. C'est que tu peux incarner, ouais, ce que tu penses, et tu peux incarner ce que tu as étudié, et c'est une réalité qui est devant toi. C'est que la personne elle-même, et c'est ça, Simat Lev, ça veut dire que la personne, elle a imprégné. C'est pour ça que je vous ai expliqué des fois, plusieurs fois, que malheureusement, des fois, des couples qui se sont tellement aimés, tellement vécu et tout ça, quand il y en a un qui meurt, le deuxième, il va mourir. C'est comme ça, ils ne savent pas marcher l'un sans l'autre, d'accord? 60 ans de mariage, 50 ans de mariage, avec la paix, avec le shalom, avec les efforts. Ils peuvent pas. Et quand est-ce qu'elle meurt la personne? Quand est-ce qu'il meurt le deuxième? Un an après. Pourquoi? Parce qu'il voulait écouter le kaddish pour l'autre. Il voulait faire le kaddish. Un an. Vous avez compris? Il voulait rester un an et après il s'en va. Parce qu'il n'a pas de raison d'être dans ce monde sans sa femme. Celui-là, il n'a pas de raison d'être sans son mari. Celui-là, il n'a pas de raison d'être sans la Torah. Je vous ai raconté un oncle à ma mère que toute sa vie, il a étudié. Il était sur son lit de mort. Et il voyait presque plus rien parce qu'il a perdu la vue à force d'étudier avec les bougies, là. Ouais. Et il était sur son lit. Et même sur le lit, il était avec le livre comme ça. Alors sa femme, elle s'est énervée. Les médecins, ils ont dit c'est fini. Et lui, avec le livre. Alors sa femme, elle s'est énervée. Elle a dit, ouais, il y en a marre de cette Torah. Ma mère, elle me raconte à moi. Elle lui a dit à sa mère, sa femme, elle lui a dit, il y en a marre de cette Torah. Encore la Torah. Même sur ton lit de mort, tu es encore avec la Torah. Toute ta vie, la Torah, elle t'a enlevé ta force, elle t'a enlevé ta vue. Maintenant, tu vois plus rien. Mais lui, il était calme. Il a dit à sa femme, tu veux que j'arrête? Il a dit, oui, j'en ai marre. Il a arrêté, il est mort. Il a enlevé le livre, il est mort. C'est qu'il ne vivait que par la Torah. C'était fini. Le corps, il est fini. Tout est terminé. Il a fait son temps. Il a tout fini. Comme si on l'a débranché. Pouf, on enlève la prise. La musique, elle s'arrête. Mais ça prend pas simplement de faire une demi-heure tous les matins de Gemara. Ça prend beaucoup. Que quelqu'un, il est devenu sa Torah. Hein. Ouais. Que celle-là, elle est devenue son mari. Celle-là, elle est devenue sa femme. Ouais, celui-là, il est devenu sa communauté. Celui-là, il est devenu sa mission. Ça veut dire combien est-ce que quelqu'un, il doit prendre sur lui pour qu'à la fin, ouais, la chose, elle a atteint son cœur. Et maintenant, son essence, c'est ça sa définition. D'accord ou non? C'est que si on lui fait une prise de sang, on trouve sa mission. Ouais, on fait une prise de sang, on trouve sa femme, on trouve son mari, on trouve ses enfants, on trouve la cause qu'il a prise sur lui. On trouve, parce que c'est ça qu'il est devenu. C'est impossible. Comment on appelle ça en hébreu? Simatlev. Simatlev. Maintenant, il y a le Simatlev à 2,50 francs, quand tu dis à quelqu'un, bon, tu pourrais quand même un petit peu mettre ta tête, tu pourrais un petit peu te concentrer, ouais. Et quelqu'un qui l'a fait à 100%, alors carrément, il a intégré ça. Mais Rachid, ici, il a bien défini, oui. Puis on ne parle pas de la connaissance, parce que les gens, ils disent, oui, je sais, ça ne suffit pas la connaissance. On ne parle pas de la conscience, que tu aies conscience que tu as touché le reptile. Non, c'est que tu n'as pas construit à l'intérieur de toi. Oui, qu'il y a des conséquences. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si tu dis, voilà, la connaissance, elle est là-bas, tu la rentres dans ta tête, elle rentre dans ton cœur, et après, elle revient à la réalité. Pourquoi? Parce que toujours, Rav Dessler, il dit, allez, vous, Amitsiout. Le cœur, c'est la réalité de quelqu'un. Ouais. Maintenant, nous, on croit que ça veut dire que c'est la définition de quelqu'un, que c'est l'essence de quelqu'un. Non, c'est ça. Ce qu'on vit, en vérité, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on croit, c'est ce qu'on est. Et ça se passe à l'intérieur. Donc quand tu amènes les choses dans ton cœur, oui, ça veut dire que c'est vraiment ça ce que tu as vécu. Tout le reste, tu ne l'as pas vécu. Comme les gens, ils te disent, vous savez, à la choupa, j'étais jeune, j'étais même pas conscient de ce qui passait. Le jour du divorce, je me rendais pas compte de la gravité. Ou quand j'étais en colère, j'étais pas vraiment là, j'étais dans ma colère. Et quand l'enfant, il a mal agi, alors j'étais dans ma haine. Et quand l'autre, il m'a pas rendu l'argent, alors je voulais qu'il meure, mais je me rendais pas compte de ce que je disais. C'est-à-dire, combien de fois tu n'es pas là? Oui. Combien de fois? Là, t'étais trop jeune, là, t'étais trop énervé, là, t'avais la haine, là, t'as pas réfléchi, là, t'étais pas préparé. Mais combien de fois? C'est-à-dire, combien de fois, en fin de compte, tu es étranger de ta propre vie? La preuve, c'est qu'après, tu dis, ah, ça y est, maintenant, j'ai compris, oh là là, c'est ça ce qu'il me disait mon père, et moi, je croyais qu'il radotait, mais en vérité, répétait parce que j'avais pas compris. Maintenant, j'ai compris. Mais c'est bien, ça fait 38 ans qu'il est mort, maintenant, t'as compris. Ouais. Et quand le rabbi disait ça, et moi je croyais que ça, il ne parlait pas de moi, il ne m'avait pas compris. C'est toi qui n'avais pas compris. Ça veut dire que tu n'as pas. Parce que pourquoi? Parce que si la vie elle est longue, ouais, c'est pas parce qu'on a beaucoup de temps. La vie elle est longue parce que ça prend du temps de faire pénétrer les choses. Ça prend du temps. C'est long. Ouais. C'est comme si tu veux te débarrasser de quelque chose, et on te dit laisse. Il faut que ça s'imprègne, il faut que ça prenne le goût, il faut que ça. Du vin, une vigne, ça prend 20 ans pour faire une vigne. J'ai envie de faire avec les hormones, avec les trucs. C'est pas du vin, c'est du jus de chaussette avec une couleur rouge. Ouais. Il faut laisser, il faut prendre du temps. Ils ont passé 3 générations, voilà, on a un bon vin. Ça veut dire que tu as pris du temps. Ouais, c'est pareil. Pour faire un bon talmide, ça prend du temps. Pas comme ça, il fait tes shuvah, vite, tac. Après, tu lui mets un peu de Torah dans la tête. Après, il fait 2 ans d'yeshiva. Après, comment il commence à donner des cours? Mais non, il faut que ça. Il faut que ça pénètre, il faut que ça mûrisse, il faut que ça s'avale, il faut qu'il crève, il faut qu'il sue sur cette Torah. Alors à ce moment-là, ça lui appartient. Et c'est pareil. L'autre jour, j'ai eu un couple, 6 mois de mariage, ils voulaient divorcer. 6 mois, comme ça. Ah, j'en ai marre, là, vous la connaissez pas, c'est, elle est folle. Je viens. J'ai annulé une soirée. Je l'ai fait venir. La fille, elle est venue, le gars, il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu, j'ai envoyé un texto. Je lui ai dit, mais où tu as trouvé cette route pas de ne pas venir? J'ai des gens qui viennent de Los Angeles pour avoir un rendez-vous. Ouais, des gens qui viennent du Canada pour avoir un rendez-vous. Une fois, il y en a, il m'a dit, je vous donne 100 000 dollars. Je lui ai dit, ça n'a rien à voir. Tu frappes ta femme, qu'est-ce que l'argent, il va changer quelque chose. Je lui ai dit, toi, j'ai pris une soirée, 2 ou 3 jours avant Pessah, d'accord? Je suis fatigué de l'année, j'ai pas beaucoup vu ma famille, tous mes enfants, ils sont là d'Israël, et j'ai pris une soirée pour toi, et tu viens pas. Même dans le texto, il a eu peur. Il a senti qu'il allait mourir ce soir, ouais. Il m'a envoyé un texto. Il a dit, c'est pas dans mes habitudes, mais là, je suis trop énervé. Moi, j'ai compris que c'était un gamin, un entêtement. J'ai dit à la femme, vous pouvez rentrer chez vous. Et après, le lendemain, je l'ai appelé. Il a répondu, on a bien parlé et tout ça. Après, il a accepté de venir. Maintenant, il a pleuré sa mère, que pourquoi il n'est pas venu avant. Et maintenant, Baruch HaShem, ils ont sauvé le couple. Mais ils étaient partis pour divorcer. Mais sur quoi? Mais quelle lourdeur! J'ai dit, mais tu t'énerves de 6 mois de mariage. Et elle ne comprend pas, et on est différent. Mais 6 mois, c'est rien. C'est rien, c'est des balbutiements. Et dans les 6 mois, combien de temps vous vous êtes vus? Ouais. Et combien de temps vous avez parlé? Et combien de temps vous êtes compris? Et combien vous avez intégré ce que vous avez appris? Combien? Ça ne dit rien. C'est 0 6 mois, c'est rien. Ouais. C'est comme si un enfant, à 2 ans, tu dis, bon, il est foutu, c'est un voyou, c'est un rachat, c'est pas la peine. Mais non, ça prend 20 ans, un enfant. C'est long. Ouais. Mais qu'est-ce qui est long? Ce qui est long, c'est de faire rentrer dans le cœur. C'est long, c'est pas d'expliquer. En fait, l'enfant, il a compris. C'est une grave erreur. Moi, je vois des choses qu'on a expliquées 1 million de fois. L'enfant, il les connaît par cœur. Lui-même, il les explique à d'autres. Ouais, mais il réagit pas encore. Je dis, mais comment t'as fait pour lui faire une chose pareille? Oui, je sais, papa. Je dis, mon fils, t'as 20 ans. Ça y est, ça suffit. Oui. Maintenant, c'est ça le problème. C'est qu'on peut prendre le temps, on peut donner l'amour, on peut expliquer, mais on peut pas rentrer à l'intérieur de la personne pour faire les connexions. Des fois, t'as envie de rentrer dans la tête, allez, donnez-moi les câbles, allez, c'est bon. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Rien que tu répètes, et tu redonnes de l'amour, et tu t'expliques d'une autre manière, et de la proximité, et de la variante, c'est-à-dire que tu cries, après tu dis que tu l'aimes, après tu sais plus quoi faire pour que le vinaigre y prend, pour que la mayonnaise, elle s'accroche. Ouais, le blanc d'œuf. C'est quand vous ratez une mayonnaise, vous avez vu comment elle est claire. Ouais. Et quand elle prend, tac. Là, ça y est, l'enfant, il a compris. Ah. Oui. Des fois, celui-là, tu lui réexpliques l'importance, la parole, la Torah, il dit, j'en ai rien à faire. Ouais. Et l'autre, tu lui dis, je veux pas que tu ailles à la yeshiva. Il dit, je vais aller à la yeshiva. Il devient un chacham incroyable. Celui-là, il fallait lui dire non. Celui-là, il fallait lui dire oui. Si tu as dit oui à celui qu'il fallait dire non, ça marche pas. Si tu as dit non à celui qu'il fallait dire oui, ça marche pas non plus. Vas-y, va chez ta mère, va pleurer maintenant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est la chimie de Simat Lev. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer qu'à un moment ou un autre, la personne, elle va passer un degré de maturité pour prendre à cœur. Ça y est, maintenant, je me mets au travail. Maintenant, ouais. Une fois, un bachour comme ça, il est venu chez moi, il m'a dit, ah ben, j'ai tri, la yeshiva, le stress, le rave, les lunettes, des bêtises, des trucs. Je dis, écoute, il m'a dit, oui, mais je me lève pas le matin, ils veulent me renvoyer de la yeshiva. Je dis, il faut que tu fasses yeshiva. Il m'a regardé comme ça. Ses parents, c'est des rabbanim. Ouais. Son grand-père, c'est un grand rave. Lui, il est bachour depuis qu'il est né. Il m'a dit, c'est quoi yeshiva? Je dis, il faut que tu fasses yeshiva. Que maintenant, tu vas pas étudier parce que ton père te l'a dit. Tu vas pas étudier parce qu'on te regarde. Tu vas étudier les Shem Shamayim. C'est une yeshiva de prendre conscience que tu n'es pas en train de faire ce que tu penses être bien, tu n'es pas en train de faire ce qui fait plaisir aux autres, tu es en train de faire ce que tu dois faire. Alors vas-y, bouge-toi. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle Simat Lev. Ouais. Que la personne, elle arrive à intégrer ça. Et cette logique-là, ce qui est marqué ici, pourquoi? Parce que la Gemara dans Shabbat, d'Aflamed d'Aleph, elle dit, « Yod'im arishaim shedarkam lamita, ela shechelev al kesilam. » Les Rishaim, les fauteurs, ils savent très bien que leur chemin, c'est la mort. C'est-à-dire que la finalité, c'est la mort. Ouais. Comme quelqu'un qui ment, il sait qu'à la fin, on ne va pas le croire. Quelqu'un qui triche, il sait. Ouais. Comme des gens, ils me disent, regardez, on a des problèmes de parler à ça. Je dis, mais quel type de Averot vous faites? Ils me regardent comme ça. Je dis, vous faites ça, ça et ça? Il me dit, oui. Je dis, mais ça, c'est des Averot qui enlèvent la parole à ça. c'est des avérotes qui enlèvent la bracha. C'est des avérotes qui enlèvent la siyata d'Ishmaïa. Qu'est-ce que je te dis maintenant? Tu peux ouvrir 44 magasins, ça ne sert à rien. Parce que, si le client ne rentre pas, à quoi ça sert? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et pourtant la personne, elle sait, elle a appris, elle connaît. Mais quand même, elle se dit qu'elle va trouver un autre chemin, que le bon Dieu il va s'endormir ce jour-là quand il va tomber sur son dossier. Mais il n'a pas besoin, c'est des systèmes qui marchent d'eux-mêmes. Oui, tu plantes et tu récoltes. Alors, ce qu'elle dit la Guémara, elle dit, mais les Réchaïm, ils savent très bien, d'Arkam la Mita, c'est pas seulement qu'ils vont mourir, parce que tout le monde va mourir. Ouais. C'est qu'il va y avoir une conséquence. C'est impossible autrement. Le gars, il trompe sa femme, il a beau être malin, intelligent, et sa femme, elle va le savoir. Un jour, elle va le savoir. Si elle le sait, elle le sait. Si elle le sait pas, elle va le sentir. Si elle le sent pas, quelqu'un va lui dire. Sinon, quelqu'un va tomber sur toi. C'est comme ça. Pourquoi? C'est normal. C'est comme quelqu'un qui a tué, un jour ou l'autre va se faire attraper. Même les gens qui font des braquages de banque, oui, ils savent déjà qu'ils vont se faire attraper. Ils savent qu'ils vont se faire attraper, oui. Ils savent à peu près combien de temps ils vont se faire attraper, donc ils essaient de faire des choses les moins graves parce qu'ils savent qu'ils vont prendre 3 ans ou 4 ans, ça dépend s'ils avaient une arme, ça dépend s'ils ont blessé quelqu'un, s'ils ont tué quelqu'un. Mais ils savent qu'ils vont se faire attraper parce que la police, elle fait son travail. Mais la question, c'est seulement savoir, est-ce qu'avant de se faire attraper, il a pu planquer un peu du butin? Il a volé 200 millions, il a réussi à cacher 50 millions de bijoux. Il a réussi à les cacher. Après, il se fait attraper, il fait sa prison, il sort. Il est tranquille. Pourquoi il va courir jusqu'à ce qu'on lui tire une balle dans la tête? Non. C'est que même le voleur, il sait qu'il va se faire attraper. Oui. Alors comment quelqu'un qui ment et qui triche et qui fait des bêtises et qui fait des avérotes, il croit qu'il ne va rien lui arriver? Alors ce qu'il dit l'Agmara, Rachid, l'Agmara dit, « Shema Tomar, Sheshrocha Imeen. » Peut-être qu'ils ont oublié. Peut-être qu'il a oublié le gars qui a des conséquences. Alors, Talmud Lomar, va achareem befiem irtsu, c'est là. Le pasuk qui dit clairement, achareem, c'est-à-dire leur fin, leur finalité, befiem, dans leur bouche, irtsu, ils vont la vouloir, ils vont la désirer. Comment ça marche? Alors, Rashi, il explique la Gemara comme ça. Yodeim em shezo darkam. Ils savent que c'est ça leur chemin, ils savent que c'est ça leur finalité de mourir. Aval kiliotem mechupin bechelbam. Kiliotem, c'est les reins. On a expliqué déjà plusieurs fois que la pensée, elle est dans la tête, oui, mais l'impulsion de la pensée, elle vient des reins. D'accord? Des reins. Les reins. Klayot, yoratsot. Les reins conseillent. Bon, je vous avais expliqué à l'époque que pourquoi est-ce que les Chinois, ils gèrent tout le stress à partir du dos. Oui? Pourquoi? Parce que les reins, en vérité, c'est-à-dire que nous, dans la pensée occidentale, on réfléchit toujours, c'est quoi la pensée? La pensée, c'est une image qu'on a créée en reliant des neurones par des arcs électriques. D'accord? Ça, c'est la pensée. Mais cette impulsion électrique qui va former la pensée, ouais. Alors, au niveau occidental, la pensée, elle est dans la tête, mais au niveau oriental, la pensée est dans les reins, est dans le dos. C'est pour ça que quand tu as une grosse décision à prendre au travail, tu as des problèmes de dos, ouais. Mais quand tu as des problèmes d'argent ou des problèmes relationnels, tu as des problèmes d'estomac. Parce que le devant, c'est l'émotionnel et le dos, c'est l'intellectuel. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clayotes qui sont le conseil, maintenant le Yetzerara, pour que tu puisses faire des bêtises, puisque ton terrain t'envoie une impulsion de réactivité, attention, c'est pas bien, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il va t'arriver des malheurs. Donc le Yetzerara, qu'est-ce qu'il fait? Il cumule des graisses sur les reins pour empêcher la réactivité. Ça va? Ça s'appelle Khelev al-Kesilam. C'est-à-dire que chaque choix que tu fais, quand tu vas d'une situation ou d'une autre, ouais, que tu le veuilles ou non, le choix que tu fais, il t'engage là où tu es. Et tu emmènes avec toi les choses. D'accord? Comme quand tu manges. Quand tu manges ce que tu manges. Tu vas manger ce que tu manges. Maintenant, tu as mangé plus gras, il y a du gras. Ouais? Tu as mangé moins gras, c'est moins gras. T'as mangé acide, ça provoque quelque chose dans le corps. T'as mangé gras, ça provoque quelque chose dans le corps. T'as mangé basique, ça provoque quelque chose dans le corps. Que tu le veuilles ou non. Maintenant, ce gras-là qu'il y a dans les artères, il vient de quelque part. Ouais, il vient de quelque part. Il fait un travail. Il vient, il se pose là-bas. Mais qui c'est qui l'a cumulé? C'est toi. De la même manière que tu peux cumuler un gras physique dans tes artères, tu peux cumuler un gras intellectuel ou un gras spirituel dans tes artères de ton cœur. C'est-à-dire que ton niveau de réactivité, il est moins fort, il est moins grand. Ouais. Ta sensibilité, elle est moins grande. Maintenant, les gens, ils croient qu'ils sont moins sensibles parce que maintenant, ils sont intellectuels, parce que maintenant, ils ont une vision éclairée du judaïsme, ouais, qu'ils n'ont pas cette vision archaïque. Mais c'est faux. C'est faux. C'est simplement que doucement, doucement, ils ont éteint la sensibilité. C'est comme quelqu'un qui va frapper sa femme. Ouais. Il ne va jamais frapper sa femme. Il va d'abord penser dans sa tête que c'est une idiote. Après, il va l'insulter dans sa tête. Après, il va lui parler mal. Après, il va claquer la porte. Après, il va partir sans explication. Après, il va lui dire un gros mot. Après, il va la pousser. Et un jour, il va la frapper. Donc, ça veut dire que le travail s'est fait doucement. Mais qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Il a déposé des graisses qui ont rendu insensible sa sensibilité. Parce que quand tu lui dis, mais quand même, comment déjà frapper quelqu'un, c'est pas évident. Frapper une femme, c'est plus dur que de frapper un homme. Ouais. Et frapper ta femme, c'est plus dur que de frapper une femme n'importe laquelle. Et frapper une femme qui t'a donné 6 enfants, c'est vraiment que t'es un animal. Ah, mais elle m'énerve. Mais quel rapport? Ça veut dire que toi, tu as déposé quelque chose qui coupe le contact. Comme la batterie. Vous savez, la batterie, des fois, la voiture, elle ne démarre pas. C'est quoi? C'est très simple. C'est qu'il y a une réaction chimique qui cumule du calcaire sur le cos de la batterie. Et de temps en temps, il faut le nettoyer. Parce que le calcaire, il se met entre le cos, c'est-à-dire le contact, et le câble, et automatiquement, le courant ne parle plus. Ben, c'est exactement pareil. Entre moi et ma femme, il y a du calcaire qui se met. Entre moi et mon enfant, il y a du calcaire qui se met. Entre moi et ma Torah, il y a du calcaire qui se met. Alors moi, je dis, oui, mais je ne ressens plus les choses comme avant, j'arrive plus à prier comme avant. Non, tu dois d'abord enlever le calcaire. Parce que le calcaire, il se dépose. C'est comme ça. Ouais. Il se dépose dans le couple, il se dépose dans la religion, il se dépose dans le travail, c'est normal. Ouais. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Khelev al-Kesilam. C'est une graisse qui se dépose sur le cœur de quelqu'un, qui se dépose sur, en fin de compte, sur le pouvoir de réactivité. Il dit, Veshema Tomar, Michamat Achelev Shachrechou. Alors, Rashi continue l'explication de la Gemara. Ici, tu vas dire que c'est à cause de cette graisse-là qu'ils ont oublié. Donc, tu crois que la personne, elle a oublié. Veharem Shogegi. Mais à ce moment-là, le rachat, il n'est pas mézid, il n'est pas volontaire. Il est involontaire, parce qu'il a oublié. Il dit non. Il dit quoi? Il dit, Tamud Lomar, Veharem, c'est-à-dire leur fin. Et à Atid, le futur, Lavo, les Nafsham Acharei Ovdam, ouais, ce qui va leur arriver après leur perte, Befi'em, dans leur bouche, Irtsu, Veisaperu Tamid, ils en parleront tout le temps. Tu sais que les gens qui se plaignent, ouais, en fin de compte, ils racontent leur avenir. Leur avenir. Même les gens qui se plaignent des autres, ils racontent leur avenir à eux. Pourquoi? Parce que, étant donné que déjà, quand ça le concerne, il fait un transfert de culpabilité sur l'autre. Donc, même quand il parle des conséquences pour l'autre, en fait, il parle de lui, parce que le problème, c'est lui. C'est bien ou non? C'est-à-dire que je peux vivre une vie complètement en parallèle. Et c'est ça, le rachat. Le rachat, c'est quoi un rachat? Un rachat, c'est pas un mouchrat, une nevela, un tamé. Non, non, non. C'est simplement quelqu'un qui n'a pas vécu sa vie. Il n'a pas vécu sa vie. C'est ça, Met. Ça, Nikreim Metim, ils sont appelés morts. Parce qu'il n'a pas vécu sa vie. Parce que soit il n'a pas pris conscience, soit il n'a pas pris connaissance, soit quand il a pris conscience, au lieu d'accepter la culpabilité, il a fait un transfert de culpabilité sur l'autre. Ouais. Donc tout ce qu'il a vécu, il a vécu en parallèle. Et ça, c'est ça qui prend le plus de temps quand on rencontre les gens. Le plus long, c'est de faire accepter à la personne quelle est sa part. C'est quoi ta part à toi? D'accord, allez, voilà, allez, d'accord. Ta femme, elle est folle. Mais c'est quoi ta part à toi? Allez, ton mari, il est cinglé. Mais c'est quoi ta part à toi? D'accord, le fils, il est paresseux. Mais c'est quoi ta part à toi? Vas-y, dis-moi quelle est ta part. Alors, il dit, ouais, alors vous voulez me complexer? Non, 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 non. Je veux savoir quelle est la part de solution que tu contiens. Pas la part de problème. La part de problème, c'est pas intéressant. Quelle est la part de solution que tu contiens? C'est-à-dire que peut-être que toi, tout le monde est en train de s'énerver sur cet écrou-là, avec le marteau et avec le tournevis, et toi, tu as la clé. C'est dommage. Des fois, c'est le père qui a la clé. Il dit, voilà, c'est un écrou de 14. Vas-y. Ah, quel kiff. Aïe, 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 aïe. Quel plaisir. Des fois, c'est le père. Des fois, c'est la mère. Va le voir, va parler à ton fils. Va, tu as la clé, toi. Ah, non, non. Ah, il comprend rien. Ça m'énerve. Ah, il me dégoûte. Il me rappelle ma belle-mère. Non. Prends la clé. Prends la clé et va débloquer cet écrou, là. Il est bloqué, va le débloquer. Ouais. Et bizarrement, c'est une clé à double emploi. Que quand tu débloques chez l'autre, tu débloques chez toi en même temps. Tac. Ouais. Parce que tu as bloqué quelque chose chez toi, ça a bloqué quelque chose chez lui. Et la vie, c'est quoi? C'est des miroirs. Alors, tu es prêt, toi, à débloquer ou non? Donc ça veut dire quoi? C'est que tant que tu n'as pas accepté le problème, et tu n'as pas accepté que tu es concerné par le problème, et tu n'as pas accepté le poids du problème, tu ne peux pas non plus accepter la solution du problème. Alors qu'est-ce qu'il fait le Satan? Par orgueil, par amour propre, par lourdeur ou par entêtement, il t'empêche de prendre sur toi le problème. Ouais. Donc toi, parce que tu le vis mal, le problème, mais c'est l'erreur. Parce que quand tu n'acceptes pas le problème, tu ne peux pas accepter non plus que tu détiens la solution. C'est pour ça que les problèmes durent. Parce que quand on le veuille ou non, on a une part dedans. C'est comme si moi, j'explique le cours et vous ne comprenez rien. Et après, je dis, eh ben, les gens des Milan, ils sont bêtes. Non, moi, je dois avoir un problème. Si vous ne comprenez rien, j'ai un problème, moi. Ça, c'est mon problème pédagogique. Maintenant, vous, vous avez un problème de vous concentrer, de réfléchir, d'essayer de comprendre le lien, et d'essayer de suivre la ligne ouais, qui est bizarre dans les cours de Ben Chetrit. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est votre problème. Mais moi, mon problème à moi, c'est que je dois avoir une connaissance, je dois avoir une conviction, je dois avoir une volonté de transmettre, je dois avoir un amour de mes élèves pour que vous compreniez. Si moi, je ne fais pas mon travail, ça ne sert à rien que je vous accuse. Ça ne sert à rien. Et à la fin, on aura de la peine tous, on aura dit, bah, c'est dommage. Parce que vous n'avez rien compris, moi, j'ai rien compris. Maintenant, comment moi je sais que vous avez compris? Hein?
Plus légère.
Plus légère. Plus légère, ouais. Ça, c'est pour la solidarité. Mais parce que moi, je sens que j'ai grandi. Si moi, j'ai grandi de ce cours, alors vous avez grandi. Si moi, je n'ai pas grandi, vous n'avez pas grandi. C'est pour ça que la grave erreur, c'est quand des gens ils deviennent des spécialistes. Ils prennent, ils transmettent. Comme un postier, il livre une lettre. Tu crois que ça le fait grandir? Mais si on te dit, dis-moi, là, monsieur le postier, cette lettre, au lieu de la transmettre, pourriez pas l'écrire? Le gars, il dit, vous voulez que j'écrive une lettre? Écrivez la lettre. Le gars, il va écrire la lettre. Il ne peut pas rester insensible. Il ne peut pas ne pas changer puisqu'il a écrit la lettre. Vous avez compris ou non? Eh bien, il y a des gens qui sont des postiers. Ils sont des postiers de leurs enfants. Ils sont des postiers de leur famille, ils sont des postiers de leurs élèves, ils sont des postiers de leur communauté, ils reçoivent du courrier, ils rendent le courrier. Bonjour, monsieur, oui, courrier, j'ai du courrier pour vous. Tiens, bonjour, j'ai du courrier pour vous. Ouais. Mais si toi, tu prends pas à cœur ce courrier-là, ce matin, j'étais à la prière, ce matin, et je vois un jeune garçon derrière moi, bon, il a fait la bar mitzvah il y a peut-être 2 ou 3 mois, mais il est en chemise, il a mis les téfilines, c'est un ashkenaz, mais pas le talit. Et il va pour faire la mida. Maintenant, moi, je ne savais pas comment faire pour ne pas le vexer. Parce que c'est une halakha que tu dois être bien habillé au moment de la mida. Vadarta, ouais. Tu dois être devant Hachem, comme devant un roi. Tu dois mettre la veste. Maintenant, il a la veste. Je vois la veste. Mais il est resté en chemise. J'ai dit, le gars, si je dis, nous, ouais, celui-là, il peut avoir la haine pendant 20 ans. Déjà, tu l'as vexé devant tout le monde et tout ça. Alors, j'ai été chercher le Shulchan Aruch. J'ai pris l'Agmara dans Brachot là-bas, j'ai pris, je sais où elle est. Après l'Agmara, j'ai retrouvé dans le Tzadik Aleph là-bas dans le Shulchan Aruch. Je l'ai amené, je l'ai ouvert devant moi. Ouais. Et après, juste avant la Mida, je l'ai regardé comme ça. Il m'a regardé. Il a mis la veste. Et après la fin de la Mida, j'ai été le voir. Je lui ai dit, regarde, tu vois, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Ouais. Derrière Talmidei Chachamim. Ouais, Chachamim et Talmideihem. D'accord. Begadim Naïm et tout. Il était content. Merci Ra, merci. Il était content. Mais moi j'ai eu peur, parce que j'ai dit il va se vexer. Pourtant j'ai dit mais c'est normal, c'est une halakha, je suis obligé de dire halakha. Mais non, parce qu'avec cette halakha là, tu peux pourrir quelqu'un pendant 10 ans. Quelqu'un, tu vas lui dire, vous me mettez mal le téfiline, il a eu tellement l'archouma, il ne l'aimait plus de sa vie. Celui-là, tu lui dis, mais vous croyez que cette boucherie c'est sérieux? Non, bon, il y a un problème avec la boucherie, trouve-lui une boucherie qui est bien. Ouais. Tu lui dis, non, mais tu manges n'importe quoi. Le gars, il dit, bon, c'est ça la cache-coute, c'est ça les rabbins. Il mange plus, il mange du cochon maintenant. Ça veut dire que des fois, la manière, elle est plus importante que le message. Maintenant, mais c'est quoi la manière? La manière, c'est pas seulement la politesse et la finesse et le derecheret. Ouais. C'est quoi? C'est la conviction, c'est l'esprit. Donc toi, tu veux transmettre quelque chose. Maintenant, toi, tu as compris l'importance de cette chose. Tu as compris qu'est-ce que ça veut dire de bien s'habiller pour la prière. Et toi, tu connais cette halakha que tu... Ouais, et tu as étudié cette Gemara. Et maintenant, tu as à cœur que tu veux faire ça, ramener ça dans la vie de cette personne-là. Alors maintenant, tu vas transmettre. Ça s'appelle que tu as pris à cœur. Maintenant, si toi, tu as pris à cœur, l'autre, il va prendre à cœur. Maintenant, imagine le temps d'intégrer une information. Ça, c'est rien. C'est une petite halakha de rien du tout. Il y a 1 million d'halakha dans le Shulchan Aruch. Hein. Mais comment je vais faire chaque halakha comme ça? comprenez, c'est rien. C'est... Parce que moi, j'adore le cinquième pérec de Brachot. D'accord. Je l'ai fait, je l'ai refait, je l'ai fait, je l'ai refait, je l'ai fait, je l'ai fait au moins 50 fois. Et au début, là-bas, la Gemara, elle amène cette dracha-là. D'accord. Et la dracha, c'est ça. Ça c'est, ouais. Que quelqu'un, il doit être bien habillé au moment de la prière. Alors, et là, la fin, elle correspond à ça. Donc, c'était quoi l'idée? C'était de dire que si un jour, je veux transmettre quelque chose à mes enfants, il faut que je l'intègre. Si je veux transmettre quelque chose à mes élèves, il faut que je l'intègre. Si je veux faire transmettre quelque chose à ma femme, à mon mari, il faut que je l'intègre. Maintenant, quand moi, je l'ai fait, j'ai fait ce travail-là, ça s'appelle Simatlev, alors j'ai intégré la chose, elle m'appartient, elle est en moi, alors je peux la transmettre. Maintenant, puisque c'est ça, c'est ça le travail de l'homme, qui doit être sadique, donc c'est quoi le rachat? C'est le contraire. C'est que la chose n'a pas été intégrée. Maintenant, sachez que la chose, elle n'est pas intégrée, mais la chose, elle est sue, la chose, elle est consciente, la chose, elle est même voulue, la chose, elle est même exprimée. D'accord? C'est que le rachat, il sait ce qui se passe, il sait ce qui lui arrive, il sait ce qui va lui arriver, et c'est ce qu'il dit. Il dit, « Ve'irtsu ve'isapru tamid afalpi ken en chozrim. » Malgré cela, il ne fait pas de teshuva. C'est pour ça que c'est très, très, très dangereux de croire que la teshuva, c'est seulement un problème de connaissance. Vous savez, une fois, on raconte cette histoire, il y avait un rav qui avait une communauté, une très grande communauté là-bas, avant la guerre, et il fallait trouver un nouveau rav. Alors, il avait pensé à prendre quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était le Chazon Ish. Mais il était jeune, le Chazon Ish, c'est un très grand Talmid Chacham. Et le rav, il l'a convoqué au bureau pour lui proposer de prendre sur lui toute la rabbanoute d'une grande ville. Mais lui, c'est un jeune homme. Il était jeune marié, mais c'est un Talmid Chacham. Ouais. Et en même temps, il y avait un autre rav qui était là, d'accord, dans le bureau, en train d'attendre le rendez-vous avec le grand rav. Maintenant, ce rav-là, qui était en train d'attendre, il ne connaissait pas qu'il n'était pas encore le Chazon Ish, il n'avait pas écrit encore son livre. Mais c'était un chacham. Il le voit, un monsieur pas très bien habillé, comme ça, un peu jeune, comme ça. Alors il lui dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il a dit, qui vous êtes? Il a dit, je suis un tel, le fils de Rav un tel. Il a dit, bon, vous êtes un fils, ah bon, c'est bien. Il a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il a dit, je suis commerçant. Commerçant? Genre, comment le fils d'un Rav comme ça, il peut être commerçant? Alors il a dit, mais vous étudiez un peu la Torah? C'est-à-dire, t'es un balabaïde, tu fais rien de ta vie? Il a dit, quand j'ai le temps, j'étudie. D'accord? Maintenant, il est assis comme ça. Le rave du bureau, il sort. Il voit donc le Chazon Ish et à côté, ce rave-là. Et l'autre, il croyait que c'était un paysan qui est venu pour poser une question. Ouais. Il va vers l'autre. Il a dit, mais tu sais qui c'est celui-là? Tu sais qui c'est? C'est le futur rave. C'est lui qui va prendre ma place. C'est lui qui va prendre sur lui toute la rabbanoute de toute la région. Parce qu'il a dit, c'est pas possible. L'autre paysan, là, l'autre débile qui est commerçant, c'est lui qui va faire. Alors en fait, il n'a pas compris que le Chazon Ish, quand il dit qu'il étudie quand il a le temps, ça veut dire qu'il étudie tout le temps. Parce que dès qu'il a le temps, il étudie. Et comme il a du temps, il étudie tout le temps. Maintenant, quand il a dit qu'il est commerçant, c'est parce qu'il est anav. Sa femme, elle tenait une petite épicerie. Et lui, de temps en temps, il aidait un petit peu. 2 secondes, 1 minute. Et sa femme, il dit, va étudier. Rentrez, genre, il prenait une boîte, elle disait, allez, va étudier, allez, retourne étudier. C'est-à-dire, il étudie à peu près 23 heures par jour. Ouais. Mais c'est vrai qu'il étudiait quand il avait le temps. Et comme il avait du temps, il étudiait tout le temps. Ouais. Mais il ne va pas dire, vous savez, j'étudie tout le temps. Non, il dit, j'étudie quand j'ai le temps. Comme ça. Là. Ouais. Tu vois. C'est. Mais ça veut dire, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la grandeur de la personne, mais dans la simplicité. Oui? La grandeur de la personne dans la simplicité. Ça veut dire quoi? Que l'étude de la Torah, elle n'est pas culturelle, elle n'est pas une profession, elle n'est pas une ambiance, elle n'est pas un passe-temps, elle n'est pas une assurance d'aller au monde futur, elle n'est pas une assurance qu'il n'y aura pas des problèmes dans la famille. Oui? Elle est vraiment la vie, c'est sa vie. Le cas, c'est sa vie. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu dis, quand est-ce que tu respires, toi? Ah ben, tout le temps. Et quand est-ce que tu dis? Pareil. Oui. Ah, tu dis, non, il faut un peu étudier, c'est normal, il faut prendre sur soi et tout ça. Oui, c'est pareil. Il dit, qu'est-ce qui compte? Ben, c'est ma famille. Ah bon? Ah bon, il a Torah? Non, mais c'est ma famille. Ah, c'est normal. Ah, d'accord. C'est normal pour lui, c'est évident. D'accord. Il n'est pas en train de réfléchir. Et, ouais. Il a, son enfant, il a un problème. Il n'arrive pas à dormir. C'est normal, c'est son enfant. Ça veut dire qu'il a pris à cœur son enfant, il a pris à cœur sa famille, il a pris à cœur sa Torah. Alors, quand quelqu'un, il va prendre à cœur Hachem, on l'appelle un sadique. C'est ce qui est marqué. Pourquoi? Parce que la logique, c'est que c'est ce qui est marqué dans Yirmiya là-bas. Ve'arini nishpat otra, je vais te juger al imratecha lochatati. Parce que tu as dit, je n'ai pas fauté. Oui, Hachem, il ne va pas juger l'homme parce qu'il a fauté. Il va le juger parce qu'il a dit qu'il n'a pas fauté. Tu as fauté. Le Yitzhara, il est fort. Il n'est pas mort. On serait au courant. Ça serait passé dans les journaux. D'accord ? Il est en pleine forme. Il te met à l'épreuve. Et tu as tenu 1 an, tu as tenu 2 ans, tu as tenu 3 ans, et tu as fauté. Alors Hachem, il va dire, tu as fauté. Alors, fais tchouva et c'est tout. Ouais. Mais si tu dis, je n'ai pas fauté, ça c'est très grave. Oui ? Alors, il dit là-bas, Ikar. Et non, al-khet. Le principal n'est pas sur la faute. Et là, al-khisaron kabbalat acharayut. Sur le fait que tu n'as pas pris la responsabilité de la faute. Et tout le monde sait qu'aucun malade ne peut se soigner s'il n'accepte pas déjà qu'il est malade. Aucun thérapeute, il peut aider quelqu'un qui lui-même, il ne veut pas se faire aider. C'est impossible. Même un ani que tu veux lui donner, même un malade que tu veux soigner, tu as besoin que d'abord il comprenne qu'il a un problème. D'abord. Moi, les gens, ils m'appellent, ils me disent, appelez-le, voilà le numéro de téléphone, je vous en prie, vous pouvez... Je ne peux pas trouver une tahboula pour qu'il téléphone. Dites-lui que j'ai demandé qu'il appelle. Montrez-lui une vidéo qui va lui donner envie d'appeler. Faites-lui un baratin qu'il doit appeler. Dites-lui qu'il a entendu la version de sa femme, mais qu'il voudrait entendre votre version. Trouvez une tahboula pour qu'il téléphone. Mais si moi, je l'appelle, il va fermer comme ça, il va se fermer. Il va me dire, vous avez fini ? Au revoir. Il faut qu'il soit en besoin. Pourquoi ? Pourquoi il en, c'est quoi qu'il en besoin ? Parce qu'il a, il a mis la chose dans son cœur. Ça se déclenche quelque chose. Ah là, je sens que là, je dois réagir. Là, il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. C'est-à-dire, tu as bougé à l'intérieur et ce qui a fait. Et à chaque fois que la Torah elle reproche, oui, encore une fois, elle reproche sur cette perte de conscience. Elle reproche. Pourquoi ? Parce que l'acte lui-même, c'est qui a fait ton corps ? Ton corps, c'est un cheval. Ton corps, c'est un mannequin. Oui. Mais ta conscience. Et ta volonté, c'est sur ça que tu vas être puni. Tu vas être puni parce que tu n'as pas pris à cœur, ou tu vas être puni parce que tu n'as pas appris, ou tu vas être puni parce que tu n'as pas réagi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on amène un korban sur le shogeg. On a expliqué déjà plusieurs fois le yesod de Rav Yehoucham Halevi. Il dit, mais comment ça se fait que le mézid, celui qui faute volontairement, il n'amène pas de sacrifice, et celui qui faute involontairement, il amène un sacrifice? Alors il dit pourquoi? Il a dit parce que Bechol shogeg yesh ratson. D'accord ? Dans chaque involontaire, il y a une volonté. Donc il y a la volonté d'être involontaire. La preuve, c'est que quand ça ne t'arrive pas, même par accident, ouais, c'est parce qu'il y a la volonté de ne pas être involontaire. Maintenant, comment on appelle la volonté d'être involontaire ? On appelle la négligence. La négligence. C'est pour ça que dans les nézikim, dans les dommages, on paye sur la pshia. La pshia, c'est quoi ? C'est la négligence. Pourquoi tu as laissé partir le... Toi, tu dois bien garder le bœuf, tu dois l'accrocher, tu dois faire une barrière qui est solide, après tu peux partir. Si tu laisses la porte ouverte, ou si tu mets une barrière qui n'est pas solide, ou si tu le mets entre les mains d'un enfant de 3 ans alors qu'il pèse 800 kilos, c'est ta faute. Pourquoi ? Pshia. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as négligé. Maintenant, pochea, c'est un fauteur. Ouais. Et pshia, c'est la négligence. Donc c'est quoi la faute ? C'est la négligence. Hein ? Oui. Non mais lui, c'est lui-même qui est puni. Non, je ne parle pas des dommages. Non, les dommages, c'est normal, on passe la conséquence. Mais en tant que Avera. Mais c'est intéressant comme question, parce que le premier qui est Ilat Yaakov, là-bas, ouais, il pose la question d'où est-ce qu'on sait l'interdit de Nézikin. Parce que la Torah, elle dit que c'est hayav. Quand tu casses, tu payes. Mais la Torah, elle ne dit pas où c'est marqué que c'est interdit de casser. C'est bizarre, non ? Alors, il y en a qui disent que c'est évident. Il y en a qui disent que c'est une halakha de gezel. C'est déjà gezel de casser, ouais. Mais c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, mais t'es déjà mézide. Maintenant, quand t'es mézide, à la limite, tu n'es même plus là. Qu'est-ce que je te dis ? Qu'est-ce que je vais faire avec toi ? Tant que t'es involontaire, je peux t'expliquer. Ouais, je peux t'arranger. Mais quand tu deviens volontaire, c'est-à-dire que tu as débranché ta conscience. Mais sur quoi il va faire ? Le korban, c'est une capara sur l'inconscience. Ouais. Le conscient, il n'y a pas de capara. C'est lui la capara. C'est lui la capara. C'est lui. Là, il va apprendre à la chote, il va faire. Bien sûr, il va faire. Mais sache que mais une capara en soi, par rapport à l'inconscience, on ne peut pas lui enlever parce qu'il était conscient. C'est pour ça que c'est très compliqué, même dans Shabbat. Yedia Batralab, Yedia Basov, ouais, comment ça marche ? D'accord ? Combien il faut être assez conscient pour que tu sois condamnable et assez inconscient pour que ça s'appelle Shogeg ? C'est bizarre, non ? Oui ? Il faut être inconscient. Comme la Gemara dit, elle dit, un Adam Khoté, il a une Ken Nirnasbo Warshtout. Un homme ne faute que s'il est pris d'un vent de folie. Ouais. Maintenant, s'il est fou, un fou, il est honnête, c'est un cas de force majeure. Alors comment ça se fait qu'on punit quelqu'un qui fait une avéra, puisque les Chachamim témoignent qu'en fautant, il est fou. Alors il y a une différence. C'est que tu es conscient de ce que tu es en train de faire, mais tu t'es pas sensibilisé à la gravité. Tu es conscient de ce que tu es en train de faire, mais tu t'es pas sensibilisé aux conséquences. Donc tu es puni pour ce manque de sensibilité. Ah, maintenant, pour que ça te concerne, il faut que tu sois conscient. Alors tu es conscient, voilà, tu sais, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. C'est pas que t'es... Si tu es mis à sec, si tu n'es même pas conscient de ce que tu es en train de faire, tu es pas hayal. Ouais. Et sauf dans les avérot de Hana'a, parce que là, on n'a pas besoin que tu sois conscient, puisque tu profites physiquement. Donc on s'en fiche que t'as pas réfléchi. Maintenant t'es en train de kiffer, tu me dis, c'est comme si t'as mangé, tu dis, t'as plus faim, non? Oui, mais c'est du cochon. Alors t'as profité. Tu dis, mais je me rendais pas compte de la gravité. T'as profité, c'est fini. Ça veut dire que si t'es lié avec la chose, maintenant t'es lié par ton corps, t'es lié par ta prise de conscience, t'es lié par ton désir de mérida, c'est-à-dire de te révolter contre Hachem, c'est ça qu'on te reproche. Il faut trouver le lien avec l'intériorité de la personne. Maintenant, évidemment, ça dépend. Parce que si la personne, quand des gens ils m'appellent, ils me disent, oui, mais Rabbi Chéri, ma femme, j'ai dit, attends, je te pose une question. Est-ce que ta femme, elle ne peut pas ou elle ne veut pas? Si elle n'est pas capable, si tu attends des choses d'elle qu'elle n'est pas capable de faire, ça ne sert à rien de t'énerver. Oui, mais oui, vous trouvez ça normal, et c'est pas normal, et je lui parle, je lui répète, laisse tomber, si elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable, elle ne comprend pas. Oui. Et toi, tu veux une certaine forme de fantaisie dans la sexualité qu'elle, elle trouve ça dégueulasse. Vas-y, va, tu lui as parlé, t'as expliqué, t'as mis en situation, t'as dragué, t'as rigolé, t'as envoyé, et ça marche pas. Donc maintenant, il faut que tu acceptes qu'il faut l'aimer comme elle est. Moi, quand le gars il m'a dit ça, j'ai dit, tu vois, mon père, il m'a jamais dit, je t'aime. Il savait pas, c'était pas leur nature à eux de dire, mon fils, je t'aime, et te prendre dans les bras. Il savait pas faire ça. Il t'invite pour Shabbat, il te paye les études, et il te dit, Hazak ou Barour, quand t'achètes la maison. Voilà, c'est ça ce qu'ils savent faire. Mais ils savent pas faire des expressions de tendresse. Alors maintenant, toi, tu as deux solutions. Soit tu vas dire, oui, je voudrais un père qui est comme ça, je voudrais qu'il soit comme ça, comme les papas américains, et mon fils, je t'aime, et mon fils, je t'écris, et mon fils, je t'adore. Ou non, je vais dire, non, il faut que j'apprends à l'aimer tel qu'il est. Mais c'est quoi, apprendre à aimer la personne telle qu'elle est? C'est de décider, est-ce que cette personne-là, que je suis en train d'exiger quelque chose, est-ce que c'est une personne qui ne peut pas, ou quelqu'un qui ne veut pas? Si c'est quelqu'un qui ne veut pas, je vais lui expliquer. Mais si c'est quelqu'un qui ne peut pas, c'est pas sa nature, c'est pas son éducation, c'est pas son petit pouce, à quoi ça sert? T'es en train de t'énerver tout ça. C'est pas normal, et moi j'ai besoin, et je vais crever. Mais crève! Ouais, c'est comme si tu as une montagne en face de toi, et tu dis, moi je voudrais que la montagne elle soit là. Mais énerve-toi! Au mieux, je déplace la maison. C'est plus facile de déplacer une maison que de déplacer une montagne. Ouais, et bien il y a des gens, non? Mais moi je vois ça, j'entends ça, je parle avec les gens. C'est très bizarre. Ça veut dire qu'ils s'entêtent, ils s'enfoncent, ils se truquent. Mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est de dire je t'aime? Mais ça ne sert à rien. Tu es en train de t'épuiser, de te fatiguer, pour rien. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté l'idée que l'autre, il ne peut pas le faire. Surtout que toi, tu crois que c'est comme toi. Puisque toi, tu peux le faire, tu penses que l'autre, il peut le faire. Mais l'autre, il ne peut pas le faire. L'autre, il peut pas. Et cet argent-là, il ne te rendra jamais. C'est pas la peine de t'énerver, de crier, de pleurer, de truquer. Tu vas faire un din Torah, il viendra pas. Tu vas faire un jugement, il va le mettre en insolvabilité. Il va mentir, il va tricher, il le rendra pas. Il vaut mieux que tu prends sur toi, tu dis, M'shika para, je l'ai perdu dans le train. Ouais, on m'a agressé, on me l'a volé. Que de dire, de te tuer à le dire, je vais avoir. Parce que tout ce temps-là, toute cette énergie-là, elle te tue. Donc ça veut dire quoi? L'osamtalev, tu n'as pas pris à cœur encore que l'argent, il est foutu. Ouais. Des fois, c'est le contraire. Des fois, tu peux le récupérer et tu dois te battre jusqu'au bout. Si tu laisses tomber trop tôt, ça veut dire qu'au fond, tu n'as pas pris à cœur que cet argent t'appartient. Parce que comment tu peux laisser 40 000 euros comme ça? D'accord ou non? Maintenant, encore une fois, si c'est un truc qui est impossible, alors il faut prendre à cœur de laisser tomber. Et si c'est un truc qui est possible, il faut prendre à cœur que ça va se faire. Et on est encore dans la Simat Lev. Oui? C'est pareil avec cet enfant-là. Tu lui veux qu'il fasse ses études. Celui-là, il est fait pour des études. T'as essayé, c'est bien. Celui-là, il n'est pas fait pour les études, c'est pas la peine. Tu es en train de te battre et de le casser, de lui faire des cours et de l'insulter. Yahmal, regarde ton frère. Son frère, c'est un intellectuel. Et lui, c'est pas un intellectuel. Moi, j'ai vu quelqu'un comme ça. Il a fait faire des cours, il a fait des maths, après il a fait la yeshiva, après il a forcé à faire de la yeshiva, après le collège. Et bien le gars, il est devenu menuisier. Menuisier, il fabrique des meubles. Un jour, il en a eu marre. Il a dit, papa, c'est bon, j'ai fait ce que tu voulais. J'ai fait la yeshiva, j'ai fait le collège, c'est bon, t'es content, c'est bien, il a fait même une smicha. C'est bon, maintenant je peux faire ce que je veux maintenant. Il a appris la menuiserie, il est devenu menuisier. Tous les soirs, il étudie 2 ou 3 heures, tous les soirs. Il est heureux, et il est bien. Et c'est bien. T'as compris ou non? C'est bien. Quelqu'un va dire, non, mais c'est pas normal, c'est pas... Pourquoi mon fils, il est pas... T'es en train de fabriquer, toi. Qu'est-ce que chacun, il doit être? Qu'est-ce que... Uff, alvaille que déjà tu sois toi-même ce que tu dois être. Toi-même déjà, que tu sois ce que tu dois être. Oui. Pour ça, je vous raconte toujours l'histoire du gars qui me dit, Ramen Chitrit, qu'est-ce que je dois faire avec mes enfants? Ils prient pas à la synagogue. Et moi, toujours, je lui dis, mais comment tu sais, toi, ce que tu es en train de prier? Il m'a dit, mais je le vois qu'il ne prie pas. Mais comment tu le vois? Mais parce que je le regarde. Je dis, alors quand toi, tu le regardes, lui, il voit que tu le regardes. Donc, il voit que tu ne pries pas. Pourquoi il va prier? Parce qu'il voit que tu ne pries pas. D'accord, oui ou non? Lui, il vient à la synagogue. Peut-être qu'il n'a pas envie de prier. Alors, il lève la tête, il voit que tu pries. Il n'a pas envie de prier. Il lève la tête, il voit que tu pries. Il n'a pas envie de prier. Il voit que tu pries, il va prier. Mais s'il voit que tu pries pas, pourquoi il va prier? Après, tu te dis, mais moi, je suis obligé de le regarder pour voir qu'il prie pas. Donc, toi, tu viens pas pour prier. Toi, tu viens pour faire du babysit. Pour faire de la surveillance policière. Tu pries de toutes tes forces. Et même, tu pries pour qu'il prie. T'as compris ou non? C'est pareil. Tu rentres à la maison, t'es fatigué, tout ça. Tu prends le livre, tu ouvres le livre. Un quart d'heure, une demi-heure. L'enfant, il vient pour faire ses devoirs, il voit en train d'étudier. Il dit, ah, mon père, il étudie. Ouais. C'est pareil, tu t'habilles bien, tu habilles snihout. Pas que tu te promènes toute nue en soutien-gorge. Après, tu dis aux enfants, la snihout, la snihout. Après, tu dis, ah, j'ai oublié la serviette. Non. Toi, tu fais la snihout et t'as pas besoin de faire des reproches aux enfants, ils vont faire la snihout eux-mêmes. Parce que toi, t'es une maman et tu fais attention et tu trucs. Tu dis, moi, ma grand-mère, je savais même pas qu'elle avait des genoux. J'ai jamais su qu'elle avait des genoux, les grand-mères. On n'a jamais vu les genoux de la grand-mère. Vous ne savez pas ce que c'est les genoux. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ah ben, c'est normal. Après la snihout, c'est normal. Ah, tu peux faire 64 conférences sur la snihout. Tu peux faire 150 reproches sur la snihout. Tu peux faire de la guerre à la snihout. Tu peux mesurer les jupes avec le centimètre. Mais si toi, tu n'as pas intégré, tu n'as pas pris à cœur, tu n'as pas ressenti, ça ne marche pas chez l'enfant. Vas-y, monte, descends et pleure et énerve-toi et prends des brachotes et allume des veilleuses et toi-même deviens une veilleuse. Et ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est marqué que quand Moshe Rabbeinu, il était en Égypte et que Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'aller sortir les Bnei Israël d'Égypte, ouais. Alors il a été les convaincre. Il fallait les convaincre. Maintenant, eux, ils étaient en Égypte. Ils étaient enfermés dans leur Égypte. Ouais. On l'a expliqué 1 million de fois, leur Égypte physique et leur Égypte personnelle. Mais lui, il n'a jamais été en prison. Il n'a jamais été enfermé. Il était toujours libre. Donc comment il va faire, lui, Moshe Rabbeinu, qui était un homme libre, de leur expliquer le désir de sortir d'Égypte, puisqu'il n'a même pas connu ça? C'est comme si moi, je vais aller expliquer à un déporté c'était quoi la déportation. Il va me dire, mais tu n'étais même pas né, toi. Tu veux, je vais lui expliquer la douleur, moi, d'Auschwitz, alors que moi, j'étais même pas. Donc je me tais. C'est normal, ouais. Alors, ce qui est marqué ici. Alors, quand Akadosh Baruch Hu lui a demandé, alors c'est marqué, Vayar Besivlotam. Il a vu leur souffrance. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Nathan enav velibo aleem liot metzer aleem. Nathan, ouais, Nathan enav velibo. Nathan, il a mis ses yeux et son cœur. D'accord? Liot metzer aleem pour avoir leur souffrance. Ça veut dire que si je ne suis pas solidaire, si je ne me suis pas solidarisé, si je ne me suis pas sensibilisé, je ne pourrai pas transmettre le message parce qu'on n'est pas dans le même monde. Tu veux consoler quelqu'un qui a perdu quelqu'un? D'abord tu vas, d'abord tu restes à côté, d'abord tu pleures. Et quand le gars il pense que vous êtes sur la même, après tu peux lui dire des mots. Ouais. Mais si toi tu penses que tu as des mots magiques, tu sais, ton père, bon, de toute façon il était vieux. L'autre il dit, écoute, je t'en prie, ferme-la. Non mais je viens pour faire la mitzvah de te consoler. Ferme-la. Déjà quand je te vois pas, ça me console. Parce que dans console, il y a sol. Des fois, d'être sol, ça console. Ouais. Plutôt que de voir toi. Ouais. C'est exactement l'idée. Ça veut dire quoi? D'abord, tu te sensibilises, après, tu ouvres la bouche. Je vous ai raconté plusieurs fois que des fois, Hachem, il envoie des missionnaires. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut, le bon Dieu? Ah, vous comptez ces trois jeunes filles-là qui ont perdu leur père. Ah, vous comptez ça, non? Un jour, il me téléphone, il veut là, voilà, c'est un gars de Paris que je connais. Et 42 ans, dentiste, gentil, sympathique. Il a fait tchouva il y a 7-8 ans. Il a fait un petit footing avec son coach. Il a dit, je me sens pas bien. Il s'est assis, il est mort. Comme ça, tac. Mort, comme ça. Maintenant, je te dis, le gars gentil, sadique, sérieux, pas de bêtises, pas de trelouette, baal zdaka, ce que tu veux. Maintenant, il m'appelle, il me dit, écoute, il faut que tu... On l'a ramené à la maison, on va l'enterrer demain, il faut que tu parles aux filles. Moi, j'arrive là-bas. Maintenant, il y a tous les gens en train de pleurer. Le mort, il est allongé dans le truc, là-bas. Et il y a les trois filles, il me dit, prends les trois filles avec toi dans une pièce et va leur parler. Maintenant, moi, je dois parler avec trois filles, que leur père, il est mort le matin. Elles sont là, les trois, elles n'ont même pas compris ce qui se passe, d'accord? Et je ne sais même pas ce que je vais dire. La mère, elle est là. Elle est devenue folle. Ouais. Mais moi, maintenant, moi, je parle par rapport à moi. D'accord? Par rapport à eux, il faut prier pour qu'ils ne deviennent pas fous. Mais moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux maintenant? Quel mot je vais trouver? Mais étant donné qu'il y en avait une des filles qui avait une tendance un peu fragile et suicidaire, j'ai dit, c'est piquant, en effet, je vais aller. J'ai fait une prière. Parce que le Pele Yoetz, il dit que le Darshan, avant chaque cours, il doit prier. Mais là, c'était pire qu'un cours. Ouais. Alors, j'ai parlé pendant 3 heures. J'ai expliqué, j'ai essayé de faire comprendre, j'ai essayé de leur montrer la solidarité, qu'il fallait ne pas accepter l'événement, et après, comment grandir avec cet événement. Et après, mais c'était une folie. C'est-à-dire, quand je suis fini là-bas, je suis parti 2 heures. Ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? Au bord de l'évanouissement. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu vas redonner la vie, cette vie, il faut que tu la prennes de quelque part. Maintenant, si tu n'as pas pris à cœur, d'ailleurs, les gens, des années après, ils te disent, vous vous rappelez la discussion, ben, je m'en rappelle encore, vous nous aviez parlé, tout ça. Mais ça prend des forces. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est ça, Nathan Ena Velibo, Liot Metzer Aleem. Tu vas te sensibiliser, tu vas prendre à cœur, tu vas participer à leur souffrance, tu vas te solidariser avec leur souffrance. Alors, à ce moment-là, tu as installé un réseau pour que les informations, elles passent. Oui, alors Moshe Rabbeinu, il nous a donné la clé. La clé, c'est quoi? C'est Nathan Libo, Enav et Libo. Ouais. Toi, tu veux bien accomplir la mitzvah de Souka. Tu as étudié la Gemara Souka, tu as pris l'alakha de Souka, tu as fait le midrash sur Souka. Après, tu as été passé Soukot avec des tzadikim. Après, tu as vu comment ils sont avec leur Souka. Tu as vu comment ils prient avec le Lulav. Tu as été au Kotel à 6h du matin avec les Mekoubalim. Maintenant, tu vas commencer un petit peu à sentir la Souka. C'est un apprentissage. Ouais. Mais si du coup j'ai fait la lachote, donc alors les nianouim, bon alors, donc alors il y a deux chitotes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire de milkshake. Non, ça veut dire que tu as fait un travail pour que maintenant tu es en train de faire la mitzvah. La mitzvah. Moi je me rappelle, j'aimais beaucoup la mitzvah de prière, de la tfila. Alors j'ai fait la Gemara, toutes les Gemarotes qui parlent de la Kavana. Après le Rambam qui parle de la Kavana, la concentration dans la prière. Après le Nefesh HaChaim sur la Tfila. Après le Pirouj d'Abedrem sur la Tfila. Après alors quand j'ai acheté le livre du Sifter Chaim, de Rav Chaim Friedlander, sur le Biur HaTfila, et j'étais encore ce Shabbat en train de relire des choses et tout ça, ça m'a rappelé cette époque. J'ai même fait des Chabourot sur la Tfila. Ouais. Sur la Kavana, comment ça marche la Kavana, jusqu'où la Kavana, c'est quoi la Kavana, de quelle Kavana on parle. Pourquoi? Parce que tu dis, mais si tu veux un jour, si tu veux bien prier, ça prend du temps. Ça, c'est une mitzvah, c'est la prière. T'as compris ou non? Maintenant, tu veux bien faire la mitzvah de Kibbudavahem, quand tu vas être capable d'écrire un kitsura la chod sur le Kibbudavahem, alors tu veux commencer à bien faire la mitzvah de Kibbudavahem. Tout ça, c'est quoi? C'est le fait, le temps que ça prend. Pour devenir ce que tu as appris. C'est-à-dire que la personne, elle va intégrer, c'est ça Talmud Obeyado, c'est pas que la personne, elle comprend, elle connaît par cœur. Talmud Obeyado, c'est qu'elle est devenue ce qu'elle a appris. Donc en fait, quand quelqu'un, il fait ce cheminement de sensibilisation et de compréhension et de prendre à cœur la chose, pour qu'en fin de compte, sa Yédia, il sort de la dimension de Yédia, et il rentre dans une dimension d'intégration. C'est ce que la Torah elle a dit toujours. Vayadarta et Hashem Elokecha, tu connaîtras l'Éternel ton Dieu. Vehashevota el levavecha. La hashava la lève. En vérité, la partie la plus dure, c'est la hashava. Nous, on est toujours impressionnés par les gens qui connaissent. Ils te disent Gmar après l'autre. Ta, 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 ta. Ouais, ils connaissent. Des fois, des niveaux de connaissance qui font peur. Et là, quelqu'un il m'a raconté, il était là-bas, hein. Il y avait le Dayan d'Anvers, et il y avait Rav Obadiah Yosef, et il y avait Rav Tzion Abba Shaul, Zichron Libracha. Ouais, Zichron Lam Libracha. Les trois, c'est des géants de la Torah. D'accord ? Maintenant, imaginez l'histoire. Donc maintenant qu'ils ont fini de parler un peu d'Alacha, des chélotes qu'ils avaient avec Rav Ben Tzion Abba Shaul, Rav Ben Tzion Abba Shaul, il est sorti de la pièce. Il restait Rav Obadiah et le Rav Kroivitz, c'était le Dayan d'Anvers. Maintenant, les deux, ils connaissent le chasse. Maintenant, comme ça, un des deux, il a dit, comme ça, comme des enfants qui te disent, je ne sais pas combien de films il a joué un tel acteur. Un Rav Obadiah, il a demandé à Rav Kroivitz, combien de fois il y a Abba Shaul dans la Gemara ? C'est comme non ? Combien de fois il est cité Abba Shaul dans la Gemara ? Parce que comme il s'appelle Rav Tzion Abba Shaul, il a dit, tiens, on va faire un petit test. Combien de fois il a cité Abba... Maintenant, je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que le chasse, c'est 2400 pages. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, tu sais quoi ? Chacun, il va faire une Gemara, par cœur, et l'autre, il va compter. Donc, le premier, il a commencé à faire brachot, tout par cœur, comme ça, sans livre, sans rien. Et l'autre, il compte, 1, 2, 3. Après, il a fait Shabbat, il a fait Yerouvin, l'autre, il a fait tout. Après, tout le chasse, comme ça. Et à un moment, Rav Obadiah Yosef, il a arrêté, il a dit, excuse-moi, Mechila, mais tu as oublié un Abba Shaul ici. Qu'est-ce qu'il a répondu l'autre ? Il a dit non, parce que le Maharsha, il dit que c'est pas le vrai Abba Shaul, c'est un autre, un Amora qui s'appelait Abba Shaul. Ça veut dire, non seulement il connaît la Gemara par cœur, mais en plus, il sait quand est-ce que c'est le vrai Abba Shaul, le faux Abba Shaul. Mais Abba Shaul, c'est un nom ! Je sais pas si vous comprenez. Déjà que tu sais de quoi elle parle, cette Gemara. Après, tu sais de quoi il parle, cette Sugya. Après, tu sais que dans cette Sugya, il y avait une discussion sur tel et tel sujet, mais après, tu connais les intervenants, Rabbi Tarfon, Rabbi Houda, Rabbi Meir, et dedans, tu sais que Abba Shaul, c'est pas Abba Shaul. Hein?
Combien de fois
pour apprendre?
Non.
Ah, je sais pas. Non, mais c'est encore une fois. Et si quelqu'un il va dire oui, mais c'est des génies, c'est des cerveaux spéciaux, ils ont une mémoire photographique. Une fois quelqu'un il a été chez Rav Obadiah Yosef, la bref, il a dit mais comment vous faites pour connaître tout ça? Vous avez vu le Yahavedat, le livre, ouais. Vous savez que c'est des trucs qui ont été enregistrés à la radio. Vous savez ça? C'est des questions. C'est-à-dire que Rav Obadiah, il était à la radio, sans livre. On le téléphonait, on lui disait Rav, dans le cas où, je sais pas, on a oublié tel truc ou tel truc ou quoi, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ouais, si on, je sais pas, on a commencé la prière et eux, ils sont déjà arrivés, là, est-ce qu'on peut répondre Baruch Baruch Shemo ? Il y avait des questions. Il a répondu directement. Mais quand les réponses, elles ont été enregistrées à la radio, et après, elles ont mises par écrit. Mais tu as vu le nombre de références qu'il amène ? C'est-à-dire que le gars, il connaît tout par cœur. C'est comme si tu as une bibliothèque de 5000 livres. Par cœur, il les connaît par cœur. Ouais. Alors un jour, quelqu'un était le voir, il lui a dit Rav, mais comment vous faites pour retenir ? Alors Rav Obadiah, il a dit amène la Gemara Shabbat. Il a amené. Il a dit ouvre telle page. Il a dit regarde le Tosfot, un long Tosfot. Et Rav Obadiah, il a fait tout le Tosfot par cœur. Un long Tosfot comme ça, pas un petit Tosfot, un long. Tout par cœur. Il a dit tu sais ce Tosfot, combien de fois je l'ai fait ? Au moins 300 ou 400 fois. C'est-à-dire que la personne, elle a travaillé. Maintenant, toi, tu crois que c'est de la mémoire, c'est. Pourquoi tu connais ton numéro de téléphone ? Deux raisons. Parce que tu as un intérêt et parce que tu l'as répété souvent. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus besoin de mémoire parce qu'ils sont dans le téléphone. Même le numéro de ta femme, tu ne le connais pas parce que c'est rien que tu cliques. Ouais. Et un jour, tu claques. Non. Mais si quelqu'un. Pourquoi il connaît son numéro de carte bleue ? Parce qu'il l'utilise souvent. Pourquoi quelqu'un il connaît son numéro de compte ? Parce que c'est important. Oui. Alors, comment quelqu'un il va connaître une Gemara ? Parce que c'est un business chez l'eau. Moi-même, mes enfants, je leur fais la guerre. Je dis des mamari chazal, des phrases des chazal, ouais. En adam chote, en adam met, en ken chote. D'accord? Apprends des phrases de Gemara par cœur. Apprends des rachis par cœur. Apprends! Pourquoi? Mais c'est pas pour apprendre par cœur. C'est pour que la chose, elle rentre en toi. D'accord? Comme tu te fais de l'auto-motivation, pour en fin de compte, au fur et à mesure, c'est ça, à chaval à lèvres. Et bien la partie la plus facile, celle qui impressionne le plus, c'est la connaissance. Et pourtant, c'est la partie la plus facile. Parce que le plus difficile, ouais, c'est la hachava la lève. C'est-à-dire de faire pénétrer les choses, de faire rentrer les choses, de faire ressentir les choses. Ça prend du temps. Alors maintenant, cette idée-là, elle est marquée en vérité dans le... Non. Elle est marquée, regardez, dans Bechukotai. Là-bas, c'est marqué... Quand c'est marqué... Ve'im Bechukotai tim asu... Et si dans mes chokim, dans mes lois, tim asu, vous allez vous dégoûter, ve'im et mishpatai tigal nafshechem, vos âmes vont les rejeter, les bilti asot, sans les accomplir, et kol mizvotai, tous mes commandements, les afrechem et beriti, pour renier mon alliance. Alors Rachid dit là-bas, c'est quoi ça? C'est sept niveaux. Regardez ce qu'il dit Rashi, il est incroyable. Donc c'est Perek Kavav et Pasuk Tedvav. Facile à se rappeler. D'accord? 26-15, c'est pas cher. Alors il dit comme ça. Aresheva Averot, il y a 7 Averot. Arishona, Goret Ashnia. La première entraîne la deuxième. Vechen Adashvit, et ainsi jusqu'à la septième. Ve Elohen, les voici. Lolamad, premièrement, la personne, elle n'étudie pas. Elle n'étudie pas la Torah. Après, Lohasa, il n'a pas accompli. Après, Moes Beacherim Aosim. Alors après, il est dégoûté des autres qui accomplissent. Troisième niveau. Après, Soné et Achachamim, il va haïr les sages. Après, Monea et Acherim. Après, il va empêcher les autres de faire les mitzvot. Après, Kofer va mitzvot. Après, il va dire les mitzvot ne sont pas d'origine divine. Et après, Kofer Baïkar, après, il va renier Dieu. Il va renier Dieu. Maintenant, regardez bien autour de vous comment ça fonctionne. C'est exactement pareil. Et même à notre niveau, à nous, c'est pareil. Alors, je vais commencer par les autres, c'est plus facile. Ouais. Tu vois quelqu'un qui est contre la Torah, qui est contre les chachamim, qui est contre la religion, qui est contre les religieux. Tu verras que d'abord, la personne, d'abord, elle n'a jamais étudié. D'abord, elle n'a pas étudié. Après, elle n'a pas accompli. Pourquoi? Parce que quand tu accomplis, quand tu fais une mitzvah, il y a une kedusha de la mitzvah qui va te protéger, ouais, qui va entériner les acquis. Donc là, premièrement, la personne n'étudie pas, et ensuite, elle n'accomplit pas. Après, qu'est-ce qui se passe? Que Moes Be'achirim Aosim. Alors après, elle est dégoûtée des gens qui font. Elle dit, ouais, vous les religieux, comme si lui n'était pas juif, tu vois. Ouais. Ouais, mais vous avec votre religion, je comprends pas, mais ça le dégoûte de voir des gens qui, ça l'énerve. Moi, j'avais des cas de Shalom Bayit. Le gars, il disait à sa femme, mais tu me dégoûtes quand tu fais de Berkat Amazon, mais tu m'écœures quand tu manges kasher, tu m'écœures. Ouais. Quand elle m'a dit ça, je lui dis, vérifiez si votre mari vous trompe pas. Il a trouvé la Goya. Parce que si c'est la religion, elle te dégoûte tellement, c'est parce qu'en fait, elle te renvoie une chose que toi, tu ne peux pas contenir puisque tu fais l'inverse. Donc il trompe sa femme avec la Goya, ouais, mais il dit à sa femme, ça me dégoûte que tu fasses le Berkat Amazon. Parce que sa conscience, elle lui dit, mais t'es une pourriture, toi. Donc la seule manière de vivre bien avec la Avera de la Goya, c'est de dire à sa femme qu'elle fait une bêtise. Au lieu que toi tu dis, j'ai mis le pied dedans, c'est comme si toi tu t'es sali, alors tu salis partout, comme ça tu dis, non mais c'est partout pareil, hein, y a pas que moi. Hein. Mais va te laver, si tu t'es sali. Après, qu'est-ce qu'il dit? Sonnez ta chachamim. Il va haïr les sages. Pourquoi? Mais parce que les sages, ils représentent l'inverse de ce qu'ils pensent lui. Moi, j'ai plein d'élèves qui me disent, mais Rav, j'ai des problèmes avec mes parents, ils sont pas d'accord avec ma religion. Mais c'est normal. Si toi, t'as raison à 18 ans, eux, ils ont tort depuis 50 ans. C'est dur à avaler que je me suis trompé. Donc laisse-les, que tu verras, ils vont te dire, oui, ta religion, c'est des bêtises. Et après, ils diront à leurs copains, ah, tu sais, mon petit-fils, ah, il a les paillesses, mon petit-fils, ah, il a la pelle qui part, ah, tu sais, mon fils, il étudie la Torah. Mais à toi, ils vont te dire, ta religion, c'est de la merde, et de toute façon, à quoi ça sert, vous êtes tous des paresseux. Et aux autres, ils disent, ah, grâce à Dieu, hein, t'as vu mon fils, qu'est-ce qu'il a fait, t'as vu comment il est devenu, c'est comme ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Sonné est à Chachamim, Monéa est à Chirim. Donc, il arrive à un niveau supérieur maintenant, il devient un rachat actif. Ouais, il va empêcher les gens, il va organiser des soirées en boîte de nuit, il va empêcher les gens de faire des avérotes, il va parler à la radio, il va dire que c'est des bêtises, il va écrire des articles dans les journaux, il va rentrer dans la gauche israélienne, d'accord, vraiment, compte. Après, Kofer ma mitzvot, il va rejeter, il va renier l'existence des mitzvot, il va dire que c'est pas mina Torah et tout, et après, il croit plus en Dieu. D'accord? Alors moi, j'ai dit, ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport à des gens qui sont loin, mais nous, même si on le prend par rapport à nous, ouais, à notre niveau, à nous, de tzadikim. Et malheureusement aussi, c'est comme ça. Qu'un jour, quelqu'un, il étudie moins. Il commence à moins étudier. Comme il étudie moins, d'un seul coup, lui-même, il voit que... Oh, il dit, oh, c'est pas évident. Bon, c'est qui a dit que c'est assourd. Et puis bon, cette cache-route, ça va, faut pas exagérer non plus. Et après, bon, et ça, c'est pas très grave. Et ça, c'est pas une vraie avéra. Mais comment tu baisses? Moi, je vois des gens, ils me disent, oui, ma femme, mon mari. Je dis, mais est-ce qu'il y a des cours? Il n'y a pas de cours. Hein. C'est normal. Donc la personne, même une personne, quand elle commence à baisser d'étudier, d'un seul coup, elle commence à faire des coulottes. Si ça, c'est des rabbanins, ça c'est... Elle rase le crâne chez moi, elle dit, oh, c'est pas grave, je ne me suis pas réveillé. Comment tu dis, mais t'as pas l'arme de rater le crâne chez moi? Non. Pourquoi? Tu crois parce qu'il ne s'est pas réveillé? Non, parce qu'il n'est pas sensible. Pourquoi il n'est pas sensible? Parce qu'il n'étudie pas. Il n'étudie pas. Ouais, tu étudies bien qu'est-ce que c'est le crâne chez moi, tu étudies l'obligation du crâne chez moi, tu fais les halakhot du crâne chez moi, tu fais l'halakhot du zman crâne chez moi. Tu peux pas rater le crâne shema. Tu peux pas. C'est très loin. Vous savez que le Rabbi Abraham ben Rambam, il dit que sur un bitoul de une mitzvah assez, c'est-à-dire une mitzvah assez que tu ne fais pas, pas mettre les téfilim, pas faire le crâne shema, il faut 40 jours de jeûne. Donc si tu veux pas jeûner toute ta vie, Il vaut mieux que tu mettes un réveil. Et après, la personne, elle descend comme ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Automatiquement, elle va commencer à se dégoûter des gens qui font. Parce que même la personne qui est dans la religion, elle trouve celui-là, il est trop religieux, celui-là, il exagère. Ah, faut pas non plus. Alors que c'est elle-même la personne, elle sait que c'est vrai. Mais ça la dérange. Mais qu'est-ce qu'elle, en vérité, qu'est-ce qu'elle a fait doucement, doucement? Elle a enlevé les couches de sensibilité. Elle s'est désensibilisée. Et comme elle n'arrive pas à vivre dans son incohérence d'insensibilité, elle est obligée soit d'être cohérente avec son incohérence, soit de rendre incohérent la cohérence de l'autre. Après, c'est normal, sonnette à Chachamim, elle ne veut pas être proche des rabbins, pas proche des religieux, parce que si ça me prend la tête, ça me saoule, ils vont nous casser l'ambiance et tout ça. C'est normal, il s'écarte. Et après, il est confirmé mis de l'autre. Oh, tu sais, c'est pas évident, se raser avec une lame, il y en a qui pensent que un truc. Et à la fin, tu dis, tu sais, est-ce que Dieu existe vraiment? Tu sais, j'ai vu la Shoah. Comment je crois pas, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu vois, les gens, pourquoi? Alors les gens, ils croient encore une fois parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils ont évolué, parce qu'ils comprennent différemment. Non, en vérité, non, simplement. Comme ils ont fait un travail de désensibilisation. C'est comme tu t'éloignes du radiateur, il fait froid. Tu te rapproches du radiateur, il fait chaud. Ouais. Alors tu dis, avec golé les makom Torah. Ouais. Va t'exiler dans un endroit de Torah. Côtoie des chachamim, côtoie des gens intelligents, côtoie des gens sérieux, côtoie des gens équilibrés. Ouais, toi, tu vas dans le showbiz, tu vois la drogue, tu vois la truc, tu fumes, tu manges, tu bois comme un malade, après tu dis, oui, est-ce que Dieu existe? Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est-à-dire que tu as fait le contraire de Simatlev, tu t'es détaché de la réalité de la Torah, tu t'es détaché de la réalité de la vie, tu t'es détaché de la réalité de ton couple, et après tu dis, j'arrive plus à ressentir, j'arrive pas à vivre la chose bien, mais c'est normal. Ça veut dire que la Simatlev, ça peut être une très très grave maladie, ouais, le manque de sensibilité, et on voit les gens. Parce qu'un jour, les gens, même ils perdent leurs parents, et ça leur fait rien. Et un jour, leurs enfants, ils partent, et déjà, le gars, il dit, bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, il est parti. Bon, ouais. Et des fois, il se marie n'importe comment, il dit, bon, écoute, c'est quand même mieux que d'être tout seul. Ouais. J'étais à Londres la semaine dernière, il m'a dit, bon, ben, écoutez, il préfère les garçons, qu'est-ce que je veux faire? Je ne comprends pas, mais c'est votre frère. C'est quoi, il préfère les garçons? Eh ben, il préfère les garçons. Je dis, mais il faut parler avec lui, il faut voir ce qui se passe, il faut réfléchir, il faut l'encourager, peut-être qu'il est dépressif, peut-être qu'il est angoissé, peut-être qu'il est dans une touma. Je dis, mais est-ce qu'il étudie, est-ce qu'il met les tefilines? Rien. Donc le Yetzer, il dit, Baruch Abba Bekoum, il va s'occuper de ton cas. Est-ce que toi, tu t'éloignes de la source de chaleur, après tu t'étonnes que tu te refroidis? Après tu dis, oui, mais c'est psychologique, c'est aujourd'hui ça s'explique, c'est génétique. Non, tu vas voir que le gars, il n'a pas confiance en lui, tu vas voir qu'il est mal dans sa peau, tu vas voir qu'il n'est pas entouré comme il faut, tu vas voir qu'il n'a aucune spiritualité, tu vas voir qu'il n'a aucun repère, et après tu vas voir que c'est tout mal vient. C'est normal. Ça veut dire qu'en vérité, si moi je ne suis pas dans un apprentissage de sensibilisation, si je ne suis pas dans un apprentissage de construction, oui, alors je vais faire l'inverse. Je vais dans une désensibilisation. Maintenant, pour ça que je vous dis tout le temps que pour être marié, ça prend 10 ans, c'est du travail. Il faut parler, il faut échanger. Mais qu'est-ce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On rend concret ce qu'on a dit à la roupa. À la roupa, on a dit « Ariat mekodeshet libeta barazo », mais ça prend 10 ans pour que ça prenne une dimension concrète. 10 ans. Et du shalom bayit, et des discussions, et des accouchements, et des pleurs, et des prières. 10 ans. Ouais. Et l'enfant, ça aussi 10 ans, ou 15 ans. Ouais. Et les mitzvot, pour devenir juif, peut-être 40 ans. 40 ans. Qu'à un moment ou un autre, tu vas avoir la Yirat Shamayim, elle sera plus grande que ta réflexion. Ta crainte de Dieu, elle sera plus grande que ta philosophie. Elle sera plus grande que tes réflexes. Elle sera plus grande que ton argent. Elle sera plus grande que ta peur. Elle sera plus grande que ta douleur. Mais ça prend du temps. Et pourtant, c'est un passage que tu dis tous les jours. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, ufron nafshecha, ufron meodecha. Ouais. Alors, si tu n'arrives pas à maîtriser ton Yetzer Hara, ouais, pour faire un avec Hachem, donc ça veut dire que tu n'as pas accompli Bechol Levavecha. Si quand tu es fatigué, quand tu es malade, ou quand tu n'as pas la tête, ou quand tu n'arrives pas à faire les mitzvot, donc tu n'arrives pas à être Mekayem ou Fron Lavshecha. Et si quand tu as un problème d'argent, ou quand ça coûte de l'argent, ou quand ça fait perdre de l'argent, tu ne veux pas faire les mitzvot, ouais, ou quand tu n'acceptes pas que des fois la vie elle est bien avec toi, et des fois la vie elle est dure, et des fois Hachem t'envoie un visage positif, et des fois il t'envoie une telecha, tu n'acceptes pas, bechol mida ou mida shumbodedlecha, donc tu n'as pas encore accompli, ou frol meodecha. C'est combien de temps ça va prendre à quelqu'un d'être mekayem le premier pasouk du schéma? Et Ahava, c'est quoi? C'est de l'écoute balève. L'amour, c'est quoi? C'est d'être collé à Dieu dans le cœur. Donc, c'est quoi l'amour? C'est Simhat Lev aussi. C'est encore une Simhat Lev. C'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, on dit l'Eshem Ichud Kodesha Berichu. Ouais. L'Eshem Ichud Kodesha Berichu, ça veut dire que je fais cette mitzvah-là pour faire un avec Hachem. Pour qu'Hachem soit un, c'est-à-dire que pour que moi je fasse un avec Hachem. Maintenant, comment je fais un avec Hachem? Parce que Hachem, il est rentré dans mon cœur. Maintenant, la mitzvah, elle est rentrée dans mon cœur. Ouais. C'est ça, je vais la faire de tout mon cœur. C'est ça, je vais prier. C'est Kolatzmotai Tomarna Michamocha. Ça y est, j'ai mis toutes mes forces dans cette prière. D'accord? Après, je vais préparer ce Shabbat. Je vais mettre toutes mes forces pour faire un bon Shabbat. Et après, je vais parler avec mon enfant. Je vais parler avec cet enfant. Et après, je vais aller dormir. Je vais aller dormir de toutes mes forces. Je vais bien dormir. Ouais. Et maintenant, je vais aller en vacances. Je vais débrancher le téléphone. Je vais m'occuper à 100% de mes enfants. Donc, chaque chose, en vérité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une Simhat Lev de tout ce que je fais. Maintenant, si moi, je vis tout ce que je vis au niveau de mon cœur, ouais, mais c'est très simple. C'est comme si, quand les policiers viennent dans une société, ils ne veulent pas l'ordinateur. Ils ne prennent pas l'ordinateur, ils prennent le disque dur. Le disque dur.
Hard disk.
Disco duro, ouais. Ils prennent le disque dur, ouais. Et bien, le disque dur, c'est le cœur de la personne. Donc, tu peux imaginer qu'à 120 ans, quand tu vas arriver là-haut, tu vas venir avec tes maisons, tu vas venir avec tes voitures, tu vas venir avec tes enfants, tu vas venir avec ta femme, avec ton mari, tu vas venir avec tes valises de Serfa. Le bon Dieu, il dit, non, donnez-moi son cœur. Donnez-moi son cœur, il va le brancher sur l'ordinateur, et on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur l'écran. Tu dis, mais il est tout neuf le disque dur. Vous l'avez formaté? Non. Quand il n'y a rien, non. Avance, il n'y a rien. C'est marrant, c'est pas possible. Et tout ça, tout ce qu'il a fait. Ah, tout ça, il l'a fait, mais pas avec son cœur. Mais il l'a fait. C'est ça, Mitzvot Anashim Melumada. Mais il l'a fait. Il a fait des enfants, rien mangé, il a dormi, il a été aux toilettes, il a dormi, il a fait les dons, il a étudié, il a appris, mais il n'a pas changé. Ah, dommage. Parce que c'est ça qui est éternel. C'est pas ça, ça c'est pas éternel. Vous savez, les maisons, tu les achètes. Un jour, quelqu'un d'autre va l'acheter. Hein. Les enfants, ils vont partir, toi tu vas mourir. Alors, qu'est-ce qui est éternel? C'est ce que tu as pris à cœur, en fait. Je pensais qu'une fois, il y a un rave, il a été dans un cimetière, et c'était marqué, genre il a vécu, la personne, elle a vécu par exemple, ça faisait des 3 ans, 5 ans, 8 ans. Alors le rave, il a eu peur. Il a dit, je ne vais pas être le rave d'une communauté où les gens, ils meurent jeunes. Il a dit, non. Il a dit, ça, il comptait seulement le temps qu'ils ont pris vraiment les choses à cœur. Il comptait. Et c'est vrai que ça faisait 3 ans, 5 ans, 10 ans. Maintenant, si quelqu'un sur 50 ans, il a pris 10 ans à cœur, c'est énorme. Qui c'est qui peut dire chaque minute, chaque seconde, il était à 100%? D'accord? Le Nefesh HaChaim, le Rav Chaim de Volozhin, il dit qu'il faut étudier des fois 3 heures pour faire une seconde l'Ishma. Dans les 3 heures, tu vas faire une seconde l'Ishma. L'Ishem Shamaim. Ni parce qu'on te regarde, ni parce que c'est l'ambiance, ni parce que tu as peur, ni parce que... L'Ishem Shamaim. D'accord? Tu vas faire peut-être 150 Shabbat, tu vas préparer 150 Shabbat. Il y en a un, tu vas vraiment le faire parce que pour Shabbat, pour la mise de votre Shabbat. Ni parce que ton mari aime les salades, ni parce que tu veux frimer devant ta belle-mère qui va venir ce Shabbat, ni parce que tu veux leur bourrer la tête, ni parce que tu aimes la cuisine. Non, tu le fais lire votre Shabbat. Combien il va falloir faire de Shabbat pour faire un Shabbat lire votre Shabbat? Combien il va falloir faire de reproches pour faire un reproche pour faire évoluer la personne? Ça va prendre du temps. Ça, on va le mettre dans le disque dur. Ça va? Chazak Baruch. Merci à vous. On va faire Milcha Yarvit maintenant. Kavav, tête vav.